Donc on était sur une thématique objet communicant, par extension aussi environnement intelligent. Et bon, je me présente, Ewen Chardronnet. Donc je travaille, j'habite à Tours. Je travaille dans une association qui s'appelle Ellipse, qui organise des différents projets artistiques et culturels, énormément sur l'échange culturel en Europe. C'est essentiel de nos activités. On travaille, on n'a pas de locaux, on travaille au projet, et donc on soutient des projets et on organise des échanges, fait venir des artistes européens en France, et on soutient des artistes français à l'étranger avec des thématiques orientées sur pas mal de domaines, notamment on a beaucoup travaillé sur les questions spatiales, donc avec quand je dis spatial, c'est espace satellitaire, etc. Avec à un moment donné, on a travaillé sur des projets européens de avec voyage au centre d'entraînement des cosmonautes en Russie. Ça, c'était il y a quelques années. On a travaillé aussi sur des anciens sites soviétiques d'espionnage ou de la défense du temps de la guerre froide. Donc en Lettonie essentiellement. L'été dernier, on est allé. En ce moment, on a un travail sur les radars antimissiles nucléaires. Donc c'est un peu de l'industrie lourde. C'est un sujet assez d'actualité parce qu'il y a des projets américains d'installer un radar antinucléaire en Tchéquie. Donc c'est les nouveaux déploiements géopolitiques entre voilà Amérique, Russie, avec la question iranienne et tout ça. Donc il y a des projets américains en Tchéquie, et c'est un peu aussi un changement historique dans la mesure où nous on est allé l'été dernier sur un ancien site de radar antinucléaire, mais là qui était dirigé de la Lettonie vers l'Europe de l'Ouest. Et donc c'est ce type de radar, c'est des installations de 100-200 mètres de haut, enfin de long sur 50-100 mètres de haut. C'est une espèce d'énorme pyramide avec une grande plaque de circuit, une antenne radar sur la face, et qui donc détecte à très longue distance les têtes nucléaires, les missiles balistiques. Donc ça c'est très c'est très très lié à l'industrie de défense. On fait un travail d'investigation là-dessus, et plutôt dans le documentaire. Et par extension, donc de ces domaines un peu spatial ou technico, donc de défense, le radar est aussi une technologie radio, d'ondes électromagnétiques, avec une irradiation assez puissante autour d'un radar. Enfin, la proximité d'un radar est assez dangereuse. Donc notre travail, ça a été de faire une enquête sur de terrain sur les irradiations dans le secteur du radar en question en Lettonie. Donc avec des études d'épidémiologie sur l'influence des ondes électromagnétiques sur le vivant. Donc ce soit il y avait une école à proximité, donc que ce soit sur les enfants qui vivaient à proximité du radar dans les années 80, jusqu'au le végétal, l'animal et tout ce qui pouvait être dans les alentours de l'installation. Donc je vous dis ça parce que c'est la question des ondes électromagnétiques, leur influence sur le vivant. Donc quand on est dans le radar, on est un peu dans la gamme micro-ondes. Donc on a les fours à micro-ondes, mais bon, on a aussi le téléphone portable qui est aussi dans la gamme micro-ondes. Donc la question de la nocivité du téléphone portable est toujours discutée, bon, jamais reconnue. Il y a plusieurs instituts qui travaillent sur la question. Nous, on travaille. Il y a Benjamin qui est là avec moi, qui va après faire la performance, une petite démonstration sonore tout à l'heure sur ces questions-là. Donc, on travaille aussi parfois avec le CRIREM, qui est le centre de recherche indépendant sur les ondes électromagnétiques. Donc, comme il y a la CRIRAD pour la radioactivité, ou le CRIGEN pour le génie génétique, il y a la CRIREM sur les rayonnements électromagnétiques. Donc ça, c'est vrai que c'est un domaine, on travaille un peu en collaboration avec ces gens-là sur le côté un petit peu enquête et essayer de faire des démonstrations techniques des champs électromagnétiques et de leur rayonnement, et essayer de les rendre visibles. Et c'est là qu'on atteint un peu aussi des dimensions plus artistiques, où quand on essaye de rendre visible l'invisible, ou de au contraire de développer des choses pour devenir invisible à des ondes radio qui ont pour objectif de ou détecter ou identifier ou positionner notre présence. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un travail artistique. Donc ça va effectivement du téléphone portable au radar antinucléaire. Donc c'est vraiment une grande gamme d'usages de ondes électromagnétiques dans des tas d'applications de notre vie quotidienne. Et bon, là, je vais vous montrer je vais développer un peu ces questions-là en lien avec la question des objets communicants. Donc c'est-à-dire objets communicants avec explosion des technologies sans fil depuis et couplé avec l'internet depuis 95, donc 10 ans de développement sur ces questions-là, développement qui se lie à, pour ça que j'ai pris cette citation d'un texte de Brian Holmes qui est un critique d'art et théoricien sur la question de la flexibilité du travail, et ce sont des technologies qui sont développées en même temps que la flexibilité du travail, donc travail flexible, intérim, précarité, changement régulier, et donc effectivement dans le travail flexible, toutes les technologies de portable, ordinateur, téléphone et technologies sans fil en général accompagnent ça de manière, disons, l'un enrichit l'autre, et donc on est vraiment en pleine phase une puissance de ce type de technique en rapport avec le marché du travail. Disons qu'après le désir, parce qu'il y a un désir d'avoir cette capacité à être mobile, hein, c'est pour ça qu'on est content d'avoir un téléphone mobile pour la flexibilité que ça apporte dans notre vie quotidienne, et pas simplement dans notre travail, mais dans notre vie quotidienne. Mais ce désir-là, il peut se relier, je l'analyse aussi comme ça, et on va rejoindre la question de l'environnement intelligent, des maisons intelligentes, et tout ça sur l'environnement intelligent de manière générale. Et ça, on peut le remonter aux années 30 ou avant, sur la question sur les rêves de maisons intelligentes. Si on regarde dans les archives vidéo internet, on trouve tout un tas de clips de la maison du futur dès les années avant-guerre, et dans les années 50-60 aux États-Unis, il y a énormément de documents de ce type-là, de maisons intelligentes. Donc il y a réellement une poussée, une marche en avant vers un environnement intelligent qui serait susceptible d'alléger nos activités quotidiennes. Donc bon, évidemment, il y a dans la maison intelligente, quand on regarde ces images des années 50-60, c'est très libéré la ménagère, il n'y a pas simplement le frigo, etc., mais sur une domotique, c'est un peu ce côté-là, c'est un peu se libérer des tâches du quotidien. Et puis voilà, donc c'est un peu listé là: productivité, mobilité, flexibilité, optimisation du temps de travail, du temps d'actif et de loisir, et puis voilà, se libérer des tâches ennuyeuses. Donc, maison qui parle, objet qui parle, entre eux, les objets parlant entre eux, communiquant de l'un à l'autre, la chaîne IFI communiquant avec tel ou tel autre objet, mais aussi les humains pouvant interagir avec ces objets communicants. Donc là, je pars sur cette idée-là, mais je vais développer un peu un scénario sombre, hein, qui, pour essayer d'aller dans la science-fiction, un peu un truc science-fictionnel, pour voir un peu jusqu'où nous mène cette notion d'environnement intelligent dans ce contexte, dans un contexte qui, malgré tout, est rattrapé par, je parlais de logique de guerre, etc., de logique sécuritaire. Donc, et puis avec la paranoïa ambiante ou ces histoires de Big Brother et tout ce genre de choses. Donc cette question de maison intelligente qui donc anticiperait nos désirs sans aucun paramétrage préalable, qui agirait autant au moment voulu. On distingue même entre maison intelligente et maison domotique. Il y a maison télécommunicante. Il y a différents niveaux dans la maison intelligente. Maison intelligente étant en quelque sorte le stade ultime, c'est-à-dire une maison qui est dominée par une intelligence artificielle. Une maison communicante, ce serait un stade inférieur qui serait plus de l'ordre de la communication Bluetooth entre tous les appareils de plateforme multimédia ou le frigo, etc. Dans une maison dite d'intelligence artificielle, là, ça peut être carrément un exemple où le réveil sonne, il est l'heure de boire le petit-déj et va la bouillard va se mettre en route parce que la maison sait, parce qu'on a une puce incrustée dans le cerveau. C'est que ce matin, j'ai besoin ou j'ai le désir même de boire du thé plutôt que du café ou autre chose. Donc, une notion de déjà de, d'entrer dans le corps par une puce pour répondre à désir, les demandes et besoins. Mais alors, l'environnement de la maison intelligente, c'est aussi un environnement de... d'un environnement de électromagnétique, un bain électromagnétique permanent qui va affecter les êtres vivants physiquement, cognitivement, comportementalement. Quand je parle de ça, c'est bon, voilà, le type, une photo prise dans une zone industrielle avec des antennes GSM, des antennes relais de toutes sortes, avec une maison au milieu. La maison communique à l'intérieur d'elle en circuit fermé, mais elle communique également avec l'extérieur. Et le pendant à un développement d'un environnement intelligent, c'est quand même aussi le développement d'une multiplication des antennes, relais, et donc de forts rayonnements électromagnétiques. Spécifiquement, dans le spectre électromagnétique, on distingue les rayonnements ionisants, les rayonnements non ionisants. Disons que pour la côté nocivité pour le corps humain, ça va être plutôt dans la gamme des non ionisants et notamment dans la gamme micro-ondes. Alors, parce qu'il y a stimulation de hormonale, hypothalamus, donc il y a du métal dans le corps qui est conducteur, donc il y a un phénomène de surexcitation du corps, donc ça va jusqu'au... Ça peut être les migraines, au développement d'une électrosensibilité, mais également, dans le pire des cas, quand on est surexposé, quand on dépasse un peu les doses, là, on tombe dans une surstimulation de l'hypothalamus et dans un développement hormonal qui peut amener jusqu'à des cancers du sang, ce genre de choses. Pour prendre juste l'exemple du GSM, bon, les seuls cas reconnus comme tels étant des cancers du téléphone portable, ce sont des gens qui travaillaient dans les entreprises de fabrication de téléphones et qui testaient des téléphones tous les jours pendant 4 ans, 7 heures par jour. Et au bout de 4 ans, ils ont développé une tumeur ou une leucémie ou des choses comme ça, quoi. Parce qu'ils ont une dose constante. Faut savoir que la dose la plus importante dans une communication téléphone, c'est entre le moment où... C'est pendant le roaming, c'est quand le téléphone cherche l'antenne relais. Dès que la tonalité... dès que ça sonne, déjà, le signal baisse, quoi. Donc c'est quand on téléphone, il ne faut pas porter le téléphone tout de suite là, il faut attendre de voir que ça sonne avant de se le mettre là déjà. Mais donc les personnes qui testent des téléphones toute la journée, ils sont toute la journée en train de suivre la marche, donc toute la journée ils sont exposés à une dose très forte. Et donc effectivement c'est les seuls cas dans des class action aux États-Unis sur des gens, des victimes de tumeurs du fait de cette surexposition pour des gens qui travaillaient. Dans leur travail, conditions de travail. Donc, on a ce contexte un peu de l'environnement micro-ondes de la téléphonie portable avec une multiplication vraiment exponentielle de l'usage. Donc, 2 milliards de téléphones portables, 20 fois plus que d'ordinateurs connectés à Internet. La micro-onde, c'est ce qu'on appelle micro-onde pulsée, c'est par paquet, quoi. C'est un signal stroboscopique. Donc c'est aussi très perturbant parce que le signal est stroboscopique, c'est pas un signal un flux constant. Il y a un phénomène stroboscopique, donc il y a vraiment un dérèglement aussi. Il y a une surexcitation non naturelle du métal qu'on a dans le corps et du système hormonal. Donc ça va même jusqu'à renforcer des dépendances aux drogues, par exemple à l'alcool ou à l'héroïne, aux drogues dopamine, moins cocaïne, amphétamine, etc., plus les drogues très addictives comme alcool, héroïne ou morphine. Le tabac, non, je crois que ça va être plus... il faut déjà avoir une dépendance, et comme c'est lié à la dopamine dans les deux cas... quand on passe des heures sur un ordinateur portable et qu'on arrête, on a une sorte de dose, l'ordinateur portable étant rayonnant lui-même un champ électromagnétique, un écran, à proximité de l'écran. Quand on sort de cette dose, il y a un phénomène où il y a une sorte de manque. Donc on boit une bière. Et on va consommer plus d'un coup. Donc il y a un phénomène qui va renforcer certaines addictions. le lien évidemment étrange, ça va être d'être à la fois drogué et passer des heures sur un ordinateur ou des heures à user téléphonie portable. Donc ça, c'est vraiment purement biochimie, enfin voilà, dopamine, cerveau, etc. Certes, le GSM, un système micro-ondes, mais également Wi-Fi, Bluetooth, maintenant Zigbee, WB, différentes normes qui arrivent, qui sont encore, donc qui vont être plus performantes que le Bluetooth, par exemple, pour ce qui est de Zigbee et UWB. Et bon, contribue à créer un environnement bon, sûr dans les zones urbaines, donc suractivé. Donc après, ça dépend des endroits, évidemment, où on est. Si on travaille dans une salle avec énormément d'ordinateurs, voire des ordinateurs ouverts, etc., on est baigné dans un bain électromagnétique, comme si on était au cœur d'un PC, en fait. C'est comme si on travaillait au milieu de la machine. Donc là, on est dans des environnements importants. Après, il y a des environnements moins touchés. La proximité des antennes relais, évidemment, aussi joue. Enfin, voilà, quoi. Donc, tout un type d'environnement électromagnétique qui a fait que la pollution électromagnétique a été multipliée par 100 environ dans les 30 dernières années. Voilà, donc en 85, on écrit que la densité totale des ondes radio artificielles parcourant la planète était de 100 à 200 millions de fois plus élevée que celle qu'on reçoit du Soleil. Donc là, il y a vraiment une multiplication ces 10 dernières années de ce qu'on appelle l'électrosmog, ce brouillard électromagnétique qu'on ne voit pas mais qui est là et dont on mesure pas encore réellement à quel niveau de dose où ça devient réellement nocif. Bon, les seuls cas avérés, c'est des doses vraiment fortes. Bon, soit la proximité d'un radar antinucléaire si on vit sur place, soit vraiment bon, voilà, travailler dans une entreprise pendant 4 ans à tester des appareils. Donc juste peut-être, alors là, un petit aparté sur des projets artistiques qui ont traité de ces questions-là. Il y a des choses un peu plus légères, du coup. Enfin, là, j'ai un projet que j'aime bien, c'est Sky Ear, qui est un projet qui était fait à Londres. C'est, donc, ils ont fait un nuage de ballons. Chaque ballon était équipé d'un capteur électromagnétique. Et ils ont lâché ce ballon donc en suspension au-dessus d'un parc et invité le public à venir sous le nuage et à essayer d'interagir avec leur téléphone portable sous le nuage. Donc le capteur donnant des belles grappes de couleurs, et en tentant de téléphoner, on pouvait voir s'il y avait une interaction. Donc à la fois, c'est joli, on interagit, on envoie des signaux. On a l'impression d'avoir une action et c'est sympathique, mais à la fois, ça, c'est réellement aussi une manifestation d'un nuage d'électrosmog de communication GSM. Donc ça, c'est, je trouvais assez intéressant. D'autres appareils communicants, il y a le GPS, hein, qui, lui, ne rayonne en rien. Enfin, une transmission, parce que la différence entre un téléphone qui envoie une onde, une antenne relais, etc., Le GSM ne fait que détecter la présence d'eux et il écoute et il va prendre trouver trois signaux et en faisant un triangle, il va donner une position. Donc là, il n'y a pas c'est un outil communicant, mais il n'a pas cette dimension forte des signaux importants en transmission radio. Là, c'est un projet de. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est pour ça que je vous en parle un peu aussi. Enfin, on a beaucoup fait de projets artistiques en lien, en usage du GPS. Et ça remonte, bon, déjà à une dizaine d'années. Mais là, il y a un projet qui était intéressant, un des premiers aussi projets artistiques dans le domaine. C'était des artistes slovènes, Marco Pelian et avec Project Atoll, et aussi un artiste américain, Brian Springer, qui était donc sur une cartographie en utilisant les premiers GPS. Alors c'était un dispositif beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui les téléphones portables GPS. Il avait besoin d'avoir un sac à dos, tout un appareillage pour pouvoir traiter les données, les géolocaliser, pouvoir les reporter sur une carte. Mais donc sous le principe de la marche d'une promenade psychogéographique dans Ljubljana, de pouvoir cartographier et donc de faire comme ça des waypoints, comme on dit en usage GPS, c'est d'avoir des marques, pouvoir se positionner comme ça. Voilà, avec bien sûr cette réflexion, c'était les GPS, avant que le GPS arrive dans les taxis. Enfin, à l'époque, Le GPS, c'était, je crois qu'il n'y avait pas encore la précision militaire, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, presque 10 ans, le GPS avait dans le civil avec une précision de 100 mètres, c'était la précision à 1 mètre était réservée aux militaires. Ils ont testé ça durant la guerre du Golfe et la première guerre du Golfe. Ça a été un avantage technologique indéniable pour radioguider les missiles notamment. Et bon, une fois cet avantage-là dépassé, ça a été converti vers le civil et je crois que c'est en 99, il y a eu un transfert de la précision militaire au civil, c'est-à-dire que tous les GPS ont atteint la précision du mètre. Et avant, le GPS qui était réservé plutôt à l'usage dans le civil, à l'usage par exemple marine, parce que 100 mètres ça va comme précision pour faire de la voile par exemple. À partir de l'usage au mètre près, on a pu commencer l'usage du GPS dans les taxis, en mode urbain. Donc ce projet était là quelques années, 2-3 ans avant la conversion du GPS du militaire vers le civil à faire un usage urbain de ça. D'autres gens qui aussi ont travaillé à ce moment-là, c'est assez drôle aussi, c'est eux à faire du dessin avec du GPS, c'est-à-dire vraiment de se promener et d'essayer de dessiner en utilisant un GPS comme un stylo, mais avec un côté voilà, promenade sur un lac. Alors ça, c'est le tout début de ce genre de projet. Aujourd'hui, ils ont atteint des sophistications dans le dessin. C'est délirant de faire du dessin en avion en utilisant l'altitude aussi comme référent. Et donc du coup de la 3D.
Ça coûte pas cher à faire, pas de fuel, rien. C'est là.
En avion, oui. Mais sinon, en mode urbain, faire des choses assez compliquées, des dessins très très sophistiqués. Bon, je vous les montre pas, mais c'est bon, ça c'est un peu une page historique de qui raconte quand ils ont commencé à faire ça en janvier 97. Alors aujourd'hui, cet usage du GPS a vraiment explosé. Hein. Maintenant, il y a tout ce genre de bouquins, Mapping Axe, avec tous les trucs, les machins pour faire un usage de GPS et de faire de la cartographie interactive sur Internet, de géolocaliser, taguer, mettre des photos en lien, etc. Là, on arrive à un projet plus récent avec donc lequel on a travaillé, qui est toujours des gens de Slovénie qui ont pas mal utilisé ça. Lui, c'est un projet de Luka Frelich qui lui se fait une bicyclette de géolocalisation, mais couplant donc sa carte GPS avec pour le coup un scan des réseaux Wi-Fi dans la ville. Donc dans l'idée de cartographier et de faire visualiser la couverture Wi-Fi dans la ville. Donc voilà des petits graphismes qui a sorti, c'est des ambulations, ces promenades en vélo avec quelques points, là une carte où il prend des captures médias, donc vidéo, photo, etc. Et ici le parcours et la capture des zones Wi-Fi, des couvertures, des différentes antennes avec réseau ouvert, réseau fermé, suivant les couleurs. Donc ça donne ce genre de carto que je trouve intéressante, bon, pour le côté la carte de l'accès libre, qui est toujours intéressante d'avoir, une vue d'ensemble de la ville et de savoir où on peut avoir l'Internet gratuitement. Et puis en même temps, 10 cartes du Wi-Fi, 10 aussi cartes du rayonnement micro-ondes du Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi, c'est compliqué en rayonnement micro-ondes du Wi-Fi parce que ça dépend du débit, ça dépend de ce qui est fait avec. Si c'est du téléchargement de films, des gigas par jour, évidemment, là, il y a un flux très important et donc il y a une sollicitation de l'antenne assez forte. Et là, il y a le rayonnement passe du simple au triple.
Le téléchargement tue.
Le téléchargement tue. Le téléchargement Wi-Fi, c'est pas très sain dans un environnement à domicile. Il faut mieux utiliser du filaire si on fait ça. Par contre, si on fait du Wi-Fi avec pour l'email, bon, là, c'est absolument rien. Quoi. Enfin, c'est 10 fois inférieur au GSM, c'est rien du tout. Si c'est du téléchargement sans fil ou du visionnage de films, ou dès que ça demande du débit et que ça passe par micro-ondes, par Wi-Fi, ça commence à devenir un peu plus problématique. Donc je trouve ce projet intéressant pour ça, c'est qu'il montre un peu les deux aspects, avec ce côté ludique de déambuler, de prendre un vélo et puis de cartographier un peu de manière assez sophistiquée les réseaux et les couvertures. Voilà quoi. Un autre projet intéressant sur le Wi-Fi, alors c'est on pourrait dire l'invention de la Wi-Fi. Là, c'est Deux artistes, hein, Adam Hyde, un néo-zélandais, et puis un croate qui s'appelle Alexander, j'ai oublié son nom. Ils font donc ce qui est le principe de Wi-Fio. Alors le principe, c'est par exemple, j'ai pas le software installé, mais on pourrait faire une démonstration de deux ordinateurs qui sont chatent. Mettons, on ouvre une fenêtre de chat et on chatte l'un à l'autre par Wi-Fi.
Okay.
Qui passe par l'antenne relais, mais qui passe par un serveur web loin, mais qui revient, qui donc va revenir à l'autre ordinateur. Donc finalement, on est à proximité. Il y a quand même de l'onde Wi-Fi qui passe, donc du signal, donc du message codé. La Wi-Fi, elle, donc sorte de radio, hein, va intercepter le signal Wi-Fi transmis. Et à partir des 0 et des 1, va recomposer le message.
Parce que c'est encodé d'une façon qu'elle peut décoder.
C'est encodé d'une façon qu'elle peut décoder. Donc elle va décoder le signal et le reconstituer en synthèse vocale. Donc c'est assez rigolo de faire salut, ça va, et puis salut, ça va.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'ils se disent bon, ben, en fait, c'est un nouveau médium, quoi. C'est le Wi-Fi, ça potentiellement peut donner des applications. D'une part, bon, évidemment, c'est un outil d'espionnage, et puis en même temps, c'est. Ça peut être ouvrir des possibilités de toutes sortes de créatives de type un usage de.
Mais ça c'est un projet artistique ou c'est un projet commercial ou les deux?
C'est pas commercial, non, c'est un projet c'est artistique et puis de développeur informatique, c'est une jonction.
C'est un challenge.
C'est un challenge de champion du hacking et du. Et puis avec une dimension artistique, c'est présenté dans les festivals et dans des expos. Hein, c'est. Avec ce côté esthétique du vieux poste de radio, enfin, comme si c'était l'invention de la radio,
TSF,
quoi. Voilà, l'invention de la TSF Wi-Fi. Donc ça, c'est c'est une application qu'on n'a pas encore vue apparaître réellement. Moi, c'est possible que Wi-Fi ont fait leur projet artistique, et puis bientôt, ça sera complètement sur le marché. Ils ont été le truc aura été complètement compris et amélioré et
marketé
avec des applications commerciales, c'est assez intéressant quand même. Hein. Et puis donc, mais ça c'est un voilà sur la question du Wi-Fi, c'est pas trop mal. Donc je reviens sur l'environnement intelligent. Donc après avoir vu un peu comme ça ces différents types d'outils et puis des exemples. Quand on parle d'environnement intelligent, on parle aussi de ce qu'on appelle ubiquitous computing, donc informatique ubiquitaire ou
pervasif,
etc. Donc
qui est partout, quoi.
Qui est partout, qui est un environnement de communication sans fil et d'exploitation, l'utilisation maximale de ce type de transmission sans fil pour faire fonctionner des objets entre eux. On parle de ça. Il y a Mark Weiser qui est celui qui a créer un peu ce concept qui dit que les technologies les plus profondément enracinées sont les technologies invisibles. Elles s'intègrent dans la trame de la vie quotidienne, je ne vais plus en pouvoir en être distingué. Donc c'est la question évidemment d'être partout et d'invisible. Donc,
juste une remarque sur lui, il est décédé,
oui.
Il est mort d'un cancer. Et il parlait des technologies invisibles et aussi il parlait des technologies sans fil. Il disait sans couture, seamless. Comme un petit peu dans les écrits de Barthes sur justement cette idée qu'on ne doit pas voir, ça doit se fondre dans l'environnement.
Oui, c'est
le plus efficace. Il y a quand même un fantasme du robot qui sait avant ce qu'on nous-mêmes on désire, qu'est-ce qui va être bien pour nous, quoi.
D'une part, oui, ça c'est quand on parlait de côté de l'intelligence artificielle qui entre là-dedans. Et puis, sans couture qui ne doit pas se fondre, tout simplement, c'est plus il y a d'interface, plus il y a de déjà deux clics, c'est déjà trop, quoi. Donc, si ça fonctionne tout seul, c'est génial. Et
voilà,
plus ça fonctionnera tout seul, plus
voilà.
on l'utilisera et plus moins on y fera attention. Enfin, c'est aussi c'est discret, quoi. Plus c'est discret, mieux c'est, quoi. Donc, il y a dans informatique ubiquitaire, on parle Internet des objets, hein, donc objets communicants, Internet des objets. Il y a une question donc autour de l'Internet des objets, c'est la question de la norme IP, hein, je vais en parler, mais donc puisque le nombre d'internautes va être dépassé dans les 20 prochaines années par le nombre d'objets qui communiquent les uns avec les autres, donc c'est un peu le scénario qui est assez probable. Si à partir du moment où on commence à donner des adresses à tous les objets communicants, puisqu'il leur faut une adresse identifiante, à un moment donné, ça, voilà, ça va dépasser le nombre d'internautes. Donc voilà, bientôt ça va être des machines à laver qui vont parler aux vêtements avec des tags dans les étiquettes des vêtements qui vont faire reconnaître automatiquement si c'est de laine, du coton, etc., etc. Ou tout ce genre de choses. Donc on appelle ça un Internet des objets. La question du code en question, c'est c'est IPv4, IPv6 maintenant. Enfin, sur la question de l'Internet des objets, c'est IPv6. C'est donc un IPv4. C'est un peu technique, hein, mais après c'était un code où il y avait 4 milliards d'adresses possibles. On va atteindre, enfin, en gros, avec les IP, les ordinateurs connectés, on va exploser bientôt la capacité de cette norme là. Et donc il faut beaucoup plus de code. Donc la norme IPv6 à 128 bits avec cette notion du code va permettre de donner des milliards d'étiquettes par jour et pendant des milliards d'années, donc de manière totalement infinie, on pourra donner des identifiants aux objets. Donc ça va faciliter énormément la systématisation de tags identifiants transmettant radio, toujours, hein, donc sa systématisation. On parle aussi d'everywhere. Il y a un livre d'Adam Greenfield qui parle de cette notion d'everywhere. Donc je parle très trop un peu dans le bouquin de Greenfield, mais ce qui est intéressant à retenir avec everywhere, bon, évidemment, c'est partout, et en même temps hardware, software. Et il fait cette analogie en disant que bientôt, en fait, le tissu urbain va devenir une véritable plaque de circuit imprimé, comme si c'était la motherboard de connexion avec ou filaire ou électrique ou sans fil, ou mais une véritable plaque de circuit imprimé avec une rationalisation du tissu urbain dans cette logique-là, donc architecture électronique, etc. Donc ça, c'est assez curieux aussi, je trouve que c'est intéressant de le signaler. Il parle aussi d'Adam Greenfield de ce qu'il dit colonisation de la vie quotidienne, parce qu'il à la fois c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine, dans le métier, mais qui très très méfiant de l'aspect invasif de ce type de choses. J'avais relevé ça de Gerold Jonas, qui est un grand, peut-être une des plus hautes positions scientifiques aux États-Unis, et qui parle de ça dans un texte qui réfère un peu à futur technologique à 10 ans. Il dit que malgré que tout le monde s'équipe de ce type de technologie et qu'on se plaint continuellement de perte de la vie privée, hein, ça, c'est la fin du secret, c'est la transparence de la vie privée, et qu'on se plaint continuellement de ça, des pertes de liberté civile, et en même temps on continue à s'équiper parce que la commodité d'usage des gadgets et des objets communicants, ça prend le dessus sur la question de la perte de la liberté potentielle derrière. Donc toujours dans Everywhere, il mentionne cette notion de colonisation de la vie quotidienne, et ils disent que à un moment donné, les utilisateurs ne sauront pas à quel moment ils sont impliqués dans une interaction technique. On parle d'invisibilité ou de sans couture, technologie discrète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait même plus qu'on est impliqué dans une interaction technique, d'où son efficacité, mais par les systèmes biométriques, par des zones et portes de transit, on ne sait plus quand on passe ou au travers d'une porte ou pas, enfin, quand est-ce qu'on est bipé ou pas bipé.
Donc finalement, c'est la fin du secret, mais il y a des nouveaux types de secrets.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que
oui.
C'est la fin du secret dans un sens,
certaines formes,
mais dans l'autre sens, par contre, ça devient de plus en plus secret.
Oui. C'est d'ailleurs une notion intéressante, hein, entre secret et transparence. Hein, c'est pas le sujet du jour, mais j'allais dire dans la notion de transparence aussi, c'est dans la notion du logiciel libre et de la culture du libre, il y a une notion de transparence, de vouloir tout ouvrir, qui entre en contradiction avec aussi le côté plus de secret sur la vie privée. On est dans un autre débat, mais ça peut être intéressant d'en parler après, si tu veux. Mais... Mm-hmm. Donc là, je voulais juste quand même préciser sur le fait qu'on peut être dans des interactions techniques sans l'avoir désiré ou sans le savoir. Ça va jusqu'au capteur intégré dans le sol, hein, où on peut évoluer dans le tissu urbain et puis pas savoir qu'il y a des capteurs dans le sol qui en fait sont là pour mesurer le trafic et pour mieux optimiser le flux de personnes dans couloir de métro ou autre, des lampadaires, mobilier urbain qui va aussi fonctionner avec des capteurs, des interactions techniques, c'est-à-dire va biper votre tag ou votre téléphone mobile ou ce que vous voulez, jusqu'aux avions sans pilote qui surveillent l'espace urbain, les drones et ce genre de choses dont on n'aurait pas non plus information. Donc on n'est plus des utilisateurs, mais là on devient des sujets géolocalisables, on a plus un rôle d'interface consciente, c'est des objets gérables et des sujets gérables sans identité individuelle.
Des sujets ou même des objets, puisque finalement on fait partie du système, quoi. Parce qu'un sujet, justement, il décide. Alors que là, on est presque une partie du système.
Oui, mais tu peux être sujet, mais quand tu as un rôle d'utilisateur, c'est pas juste un sujet tracer les sujets en évolution. Ils ont leur liberté d'évolution, mais ils ont plus conscience qu'on a des informations sur eux. J'ai eu une conférence de Greensfield où il parlait des proportions que ça prend dans certains boutiques au Japon où tous les objets du supermarché sont tagués. Et il y a ils étudient comment, dès qu'on déplace un objet, l'information est transmise. Donc, simplement le fait de regarder les notices, d'être intéressé par un paquet de yaourt, ou de regarder puis de le remettre, cette information-là est enregistrée. Donc, on peut analyser les hésitations du consommateur, voir s'il regarde plutôt le prix, plutôt la composition, l'étiquette.
Sur les pages web aussi, on va regarder quand on va sur un lien, mais on ne clique pas. Donc, on va pouvoir faire la carte de là où on aurait pu aller.
Voilà, ce genre de choses. Mais donc avec ce côté, les angoisses personnelles. Enfin, je veux dire, c'est bon. Des fois, c'est une question de pouvoir d'achat, on rentre dans l'intimité des gens, puisque ça peut être. Attends, je regarde s'il y a j'ai du cholestérol ou je sais pas. Donc, c'est des données qu'ils ont pas, mais ils vont mesurer l'hésitation et réorienter le marketing du supermarché en fonction de ça. Simplement, le déplacement des objets, qu'on les prend, qu'on les remet, etc. Ça va jusqu'aussi à des choses quand même assez comme ça, ce site Form Get Me Not Panties, où c'est où là la petite culotte de alors c'est vous disiez est-ce que vous avez toujours été inquiet de que votre femme vous mente, ou est-ce que vous êtes inquiet de savoir où est votre fille le tard la nuit, offrez-lui des sous-vêtements avec un tag GPS géolocalisable pour savoir où elle est. Bon, en réalité c'est pas un vrai site commercial, c'est un groupe d'artistes qui fait des faux sites, et ils ont fait cette campagne sur donc en faisant un faux site commercial Forget Me Not Panties, et en ayant des commandes, commençant à recevoir des commandes de magasins de fringues, trouvaient ça génial, qui commençaient à leur envoyer des commandes pour savoir où se procurer, etc. Donc ça, c'est une action d'un groupe qui s'appelle Preemptive Media, qui est un groupe américain, je crois, qui fait dans l'art, en travaillant sur les faux sites et le marketing. Donc voilà, tous pucés, hein, 60 milliards d'objets dans le monde, potentiellement intégrables dans le projet d'environnement intelligent, mais aussi 8 milliards d'animaux d'élevage abattus chaque année, 1 milliard en France, avec la volonté de traçabilité de l'animal, de la viande, etc., de l'alimentation en général, de la naissance à la consommation, avec également 7 milliards d'humains, où le puçage aussi des humains a commencé. La technique pour ça, c'est la RFID, hein, identification par radiofréquence. Donc RFID inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour distinguer les avions ennemis des avions amis. Donc à l'époque, technologie assez basique, pas du tout miniaturisée, hein, mais une technologie d'identification radio. Donc aujourd'hui, les RFID peuvent atteindre des tailles microscopiques. Là, on voit sur un pouce un micro RFID. Ou aussi, plus simplement, l'équivalent d'une étiquette qui existait déjà pour le code barre, plaquée sur un produit dans la chaîne économique. Donc, l'intérêt de la RFID pour le marché, hein, c'est son caractère universel, c'est-à-dire que contrairement au code barre, elle se propose d'unifier la chaîne logistique, le dispositif de sécurité et l'environnement domestique. Intelligente toujours, donc cet environnement, cette maison intelligente. Comment ça se distingue? C'est que les étiquettes RFID elles donnent à chaque objet un numéro unique, alors que les Donmars, les codes barres donnent un numéro pour une classe de produits. Donc ce qui explique que dès que l'objet code barre sort du supermarché ou du magasin, et ben comme il a un numéro unique pour la classe de produits, il n'a plus d'efficacité pour sa traçabilité et son usage après achat. La RFID, la puce RFID peut permettre de tracer l'objet. Et, comme c'est un numéro unique, on peut le tracer ensuite dans l'environnement domestique et dans l'usage quotidien de l'acheteur. Donc ça va de la chaîne logistique, hein, de tout le rayonnage et le transfert des objets, comme faisaient déjà le code barre, mais le fait qu'il y ait un identifiant unique permet d'affiner évidemment la chaîne logistique, et puis le suivi jusque dans l'environnement domestique. Ici on a les frigos intelligents, donc le moindre objet, une bouteille, un yaourt, un jus d'orange, chaque fois un identifiant unique, on a la porte de droite, on n'a même plus besoin d'ouvrir la porte du frigo, on sait exactement ce qu'il y a dans le frigo, avec la date de péremption des produits, etc. Tout est indiqué, attention, les yaourts sont périmés, il faut les sortir, on les mettre dans la poubelle.
Pourquoi pas même des RFID qui seraient organiques, des gens qui réfléchissaient au fait que les aliments eux-mêmes pourraient émettre des informations sur ce qu'ils ont
Oui. Oui, pas que le produit plastique. Bon, souvent, ils parlent aussi des tomates avec les petites étiquettes Saveol. Il y aura une petite puce dedans.
Ah oui.
Sur chaque tomate, il les étiquette hein, dans les chaînes, dans les tomates industrielles, comme Saveol ou autre, une étiquette sur chaque, ou sur les melons. Donc, il y aurait une puce dans chaque légume, enfin, potentiellement. Donc, toujours pour le côté efficace de quand on met tout ça dans un frigo. On peut toujours avoir une utilité de ces tags. Donc il y a aussi le puçage des cheptels, hein, des animaux. Hein, donc il y a un projet européen IDEA qui avait fait des tests de 98 à 2001 sur taguer, pucer des animaux. Donc voilà, 400 000 bovins, 500 000 ovins, 29 000 caprins en France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Pays-Bas. Donc un test concluant, et donc maintenant à partir de l'année prochaine le puçage des animaux va être obligatoire aux États-Unis, et pour le franchissement des frontières européennes en 2012 c'est prévu, donc avec l'argument que mettre une puce sur une vache ça lui fait beaucoup moins mal que si on la marque au fer rouge ou on la tatoue, donc puis c'est plus efficace que voilà un tatou dans l'oreille ou... C'est sans fil, c'est un identifiant plus clair, on peut pas faire de fausser le truc, c'est injecté sous la peau, etc. Comment ? Aussi, ouais. Genre de choses, ouais. Ça va jusqu'à, j'allais en parler d'ailleurs, et... ça va jusqu'à la reproduction hein, des cheptels. Puisque le puçage des animaux va réduire l'emploi agricole et renforcer le contrôle de distance de l'exploitation. Donc suivi individuel des animaux pour le tri, l'alimentation, sélection des femelles en chaleur. Et ça va jusqu'à, là la photo c'est, on équipe la femelle d'une puce et l'homme on lui met un lecteur. Donc dès qu'il y a un rapprochement d'un lecteur RFID avec une puce, ça veut dire qu'il y a une relation intime. Et donc l'éleveur peut rester dans son bureau, constater, gérer à distance tout ça et avoir l'enregistrement de tout ça. Donc là, les puces RFID sont pas injectées sous la peau, mais c'est plutôt sous la forme de boucles d'oreilles ou dans ce qu'on appelle bolus ruminaux, c'est donc ingéré dans les pré-estomacs des moutons ou ce genre de choses. Voilà, donc après, voilà, mal équipé de lecteurs RFID, ça peut aller comme ça très loin. Donc ça, c'est des recherches qui se font dans comment s'appelle l'Institut de recherche agronomique, l'INRA. L'INRA, voilà. L'INRA. Donc ça, puissage des cheptels, mais également leur puissage social, hein, puissage des humains, c'est un peu l'étape suivante. Alors il y a différents arguments pour valoriser ça, hein. C'est donc à la fois le système de contrôle de masse avec des arguments sanitaires, personnes âgées, enfants, malades, morts, les sécuritaires, prisonniers, migrants, etc. Avec une valorisation où on a tendance à favoriser l'usage des technophiles. Alors ça passe par technofans jusqu'aux artistes lui faisant usage de ça, et on a tendance à sponsoriser ce côté-là puisque ça peut faire et contribuer à faire la promotion de ce type de technique. Donc des exemples, hein, gestion de foule, la Coupe du monde de football de l'an dernier, donc 3 millions de RFID qui avaient été intégrés dans les billets, ce qui a permis de gérer les flux de personnes à l'entrée des stades, puisqu'ils avaient tous un billet identifiant, donc on pouvait optimiser les barrières et le flux des individus. De même, la gestion des hooligans, hein, où les maillots de foot, par exemple à Turin, ils ont décidé d'équiper tous les maillots de foot vendus au shop officiel de puces RFID, de telle manière aussi à optimiser la gestion des supporters ultra, ce genre de choses. Et pour avec un argument premier, c'est quand même éviter les contrefaçons, mais bon, quand c'est vendu à la boutique des ultras, on imagine bien. Donc aussi puçage des enfants ou des personnes âgées, donc ça c'est déjà des choses pratiquées aussi, hein, donc ça va dans les hôpitaux pour question de productivité, contre la distance des patients, et puis ensuite pour les personnes âgées égarées, atteintes d'Alzheimer, des troubles de mémoire, donc on les puce, comme ça on les retrouve facilement s'ils se perdent. Et puis dans beaucoup de maternités aux États-Unis, en Écosse ou ailleurs, ils ont remplacé les bracelets des nouveau-nés où il y avait le prénom par des puces RFID pour éviter les échanges accidentels de bébés, en disant qu'ils ont réduit de 50 000 les échanges accidentels de nouveau-nés en leur mettant une puce RFID en bracelet.
C'est un marché énorme aussi, c'est-à-dire en termes d'économie, parce que ça a un coût de mettre toutes ces puces.
Bah, ça ne coûte rien, une puce RFID. Hein, donc
le fait de les installer,
acheter un carton de puce RFID et d'installer ça à des nouveau-nés, okay, c'est quelques centimes, une puce RFID, c'est vraiment pas cher.
Système qui va permettre de gérer...
Les lecteurs... Ouais, c'est un coût, mais je suppose qu'en faisant le rapport coût-gain, il y a plus de gains, quoi, par rapport à des systèmes anciens, avec taux d'erreur et affiner la précision de la gestion de l'information. Donc il y a forcément un gain, enfin, c'est ce qui est valorisé en tout cas. Bon, enfin, faut dire qu'il y a énormément, une grande campagne de valorisation de cette technique depuis un an ou deux, donc on est complètement baigné là-dedans. On se demande encore si ça a réelle utilité, mais tous les jours, il y a des news qui vont dire « Ah ben, ça y est, tel hôpital s'est équipé de la puce RFID pour ses nouveau-nés, tel truc. » Ou bon, jusqu'à la gestion des malades, hein, c'est-à-dire, bon, là, dans, par exemple, pour les diabétiques, ils vont gérer leur taux d'insuline grâce à un implant dans l'abdomen avec un émetteur-récepteur qui va envoyer la dose, ou carrément des microchips. C'est une société qui commercialise une puce qui est incorporée au médicament lui-même, et qui dose les prises de produits par un système de communication. Donc on prend tac, le cachet, et il sait ce qu'il doit donner dans... c'est un contrôle dans la pilule elle-même, quoi. Donc une entreprise assez connue, peut-être que vous connaissez, c'est VeriChip, qui a vraiment fait pas mal parler d'elle l'implant d'un RFID sous la peau. Donc ils sont vraiment à l'avant-garde depuis quelques années maintenant, ils ont fait pas mal parler d'eux. Hein. Le principe, c'est cette puce, hein, qui est la taille d'un grain de riz qu'on glisse sous la peau, qui est un RFID passif. Bon, la différence entre un RFID passif et actif, c'est que les passifs n'ont pas de batterie, donc ils ne sont pas localisables, sauf quand ils ne sont pas à proximité d'un lecteur. La proximité, c'est un mètre, moins d'un mètre. Un RFID actif, lui, est équipé d'une batterie et il est potentiellement localisable de bien plus loin puisqu'il y a une antenne puissante. Il est toujours actif, alors qu'un passif, c'est le lecteur qui lui donne l'énergie, qui active le lecteur, s'approche du passif, envoie la onde radio et active la puce. Sinon, elle est dormante, elle n'a pas de batterie, C'est un circuit dormant. Alors qu'un RFID actif, lui, a une batterie. Donc, il est toujours... toujours en fonction. Donc, il suffit d'une antenne directionnelle puissante et on détecte un RFID actif à 100, 200, 300 mètres. Donc, avec ce que ça implique au niveau gestion, etc. Donc, Verichip disant, mais nous, on fait que du RFID passif. Hein, il n'y a pas de surveillance généralisée comme pourrait y avoir avec les RFID actifs. Le RFID actif étant utilisé surtout dans de la logistique lourde. Hein, c'est... FedEx, les containers, et puis dans l'armée, la gestion militaire de conflits, logistique militaire, ce genre de choses. Enfin, pour le moment, quoi. Mais autre exemple, hein, le puçage des migrants. Alors ça, c'est des propositions. C'est pas encore appliqué, mais ça a été suite aux manifestations l'an dernier sur. Des latinos nord-américains qui contre les politiques de migration de répression à la frontière mexicaine, il y a eu une proposition de George Bush en disant qu'il fallait utiliser de la haute technologie pour la gestion de cette histoire de frontière sud, et le président à la colombien lui a proposé de pucer les migrants saisonniers. Avec la société Verichip a du coup complètement rebondi sur le truc en disant mais nous on peut vous le faire, on a la technologie pour. Verichip s'est proposé tout de suite pour dire nous on peut vous le faire pour pucer vos travailleurs saisonniers, c'est-à-dire qu'ils viennent pour la saison estivale faire une saison fruitière, et puis pour être sûr qu'ils rentrent chez eux à la fin de la saison et qu'ils ne restent pas pour Noël en tant que travailleur illégal ou qui ne se reste pas définitivement aux États-Unis, donc de leur insérer une puce pour surveiller leur va-et-vient et vérifier qu'ils repassent la frontière. Quand même assez inquiétant. Autre exemple, c'est aussi puçage des VIP. Il y a une boîte de nuit à Barcelone qui est assez connue maintenant pour cette histoire de pucer ses clients VIP. Donc on rentre dans le bar, dans la boîte, on se fait insérer la puce. Et on a notre crédit de consommation en gin tonic au bar et on a accès au salon VIP. Et on n'a plus qu'après venir au bar et faire bip, bip, et on se fait débiter sa consommation. Il y a eu pas mal de reportages et tout ça de journalistes qui ont été faire l'enquête. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est quand même assez difficile de l'enlever. Hein, ça s'enlève pas comme ça avec un... il faut une incision, donc on peut passer une nuit, se retrouver avec une puce, et si on veut l'enlever le lendemain, bon, c'est quand même tout un truc. Il faut aller voir son médecin, se faire inciser, un scalpel, etc. quoi. Mais bon, ça marche apparemment, hein, ils ont beaucoup de clients depuis qu'ils font ça. Donc on est un peu dans le puçage volontaire, hein, quand on est dans le type client de boîte de nuit qui est super content d'avoir une puce, c'est trop mode. Donc on est vraiment dans le côté volontaire, et mais bon, faut les entreprises comme Verichip ont quand même une sorte de rigueur sur le côté volontaire, de sélectionner les bonnes personnes, de pas aller nous on a essayé de commander Verichip, ils t'envoient un questionnaire avec un genre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, consultez votre médecin, demandez une ordonnance ou il faut passer par un médecin pour le faire. Enfin, ils vont pas vous en donner comme ça. Ils font attention à qui sont les gens qui en font usage. Si c'est pour si c'est pour faire usage et pour en critiquer ce que fait Verichip, évidemment. Donc, ils surveillent ça très fort, et c'est pour ça qu'ils demandent une sorte de profil moral ou un potentiel acheteur, soi-disant pour pas qu'il, je sais pas, les raisons, le terrorisme toujours, ou la question de sécurité revient, ce genre de choses, quoi. Donc il y a des gens qui se font implanter volontairement comme ça dans la main pour remplacer leur clé de voiture, ils se mettent une puce dans la main, genre de pour le mot de passe, il y a que moi qui peux avoir le mot de passe en passant la main devant. Là on a une photo d'un mec qui fait beaucoup de publicité pour ça, qui se fait beaucoup parler de lui, il va dans les plateaux de télévision en disant je suis un implanté volontaire, j'adore ça, j'en ai mis partout, dans mes deux mains. Donc là, c'est une photo qui vient de ça, où on voit ces deux puces dans ses mains gauche et droite. Donc quand on est dans une situation comme ça, on est quand même, c'est très, très, très américain comme situation, une situation la justice américaine. Et en France, on est présumé innocent, mais avec la justice américaine, on est plutôt présumé coupable. Enfin, on plaide coupable dans un procès, même si on est innocent, mais il faut plaider coupable pour... Parce que pourquoi je dis ça, c'est bon, ça fait penser à un peu Minority Report. Hein. Si vous avez vu Minority Report, bon, c'est pas des puces, mais c'est des, ça va être rétinien, ils font trafic d'organes, trafic d'yeux pour passer au travers des différentes grilles de d'identification, avec cette notion de la brigade du pré-crime. Voilà qui vous protège votre futur. Et qui donc fait du prédictif à partir du puçage, en gros. C'est le pré-crime, c'est ça, mais on s'en approche. Parce qu'il y a voilà, fusion des deux bases de données, hein, médicales, assurances, banques, état civil, carte grise, casier judiciaire, etc. Où donc les infractions et les crimes peuvent être prédits à l'avance. Il y a eu un projet de loi aux États-Unis, c'était demander le permis de conduire dans les bars aux gens, clients, vous devez. Alors, moyennant, non pas un permis de conduire comme nous, mais intégrer carte bleue, carte et permis de conduire, faire une carte universelle, hop, comme ça on la passe et on dit attention monsieur, vous avez eu retraite, vous avez 2 points de moins dans votre permis là, il y a 2 mois, on ne peut pas vous servir d'alcool, ce genre de choses. C'est un projet qui n'est pas passé, mais il y a une volonté voilà, d'unifier les bases de données et du coup ce que ça implique si on a un seul carte identifiante ou ce genre de choses, quoi. Donc ça améliore donc cette capacité à gérer en temps réel, hein, donc répression aussi immédiate. On va dans un bar, non, on ne vous sert pas, vous avez déjà un antécédent, monsieur. Donc du coup on rentre effectivement là où on est présumé coupable, là on est dans le pré-crime, parce que bon, si on rentre dans un bar et que a priori bon c'est parce qu'on a eu un des ennuis il y a 2 ans qu'on va retirer, on n'est pas tous des récidivistes potentiels, donc il y a cette notion
du contexte,
c'est-à-dire voilà, c'est voilà. Donc, mais c'est, ça nous fait entrer dans cette notion de pré-criminalité.
Et donc de l'inverse aussi. C'est-à-dire que l'idéal social, sociétal, change. C'est-à-dire qu'il va falloir être parfait, c'est la perfection. Et donc avec tout ce que ça encombre. Perfection ouais. Comportementale, mais après perfection physique, dans blanc.
Oui, oui. C'est
critères,
il y a ce qu'on appelle la technologie persuasive qui rentre un peu dans ce créneau-là. Ouais, d'accord. Donc du pré-crime au télécontrôle social, donc il y a un autre exemple, c'est une société qui s'appelle Compex qui propose elle des solutions RFID pour surveiller le trafic routier, mais le paiement des parcs-mètres et la reconnaissance des véhicules par la police et par appli. Voilà. Alors la solution c'est de mettre toutes les plaques, suggère que toutes les plaques d'immatriculation de voiture soient équipées d'une puce RFID. Et que toutes les pare-chocs de voitures de police soient équipées de lecteurs. Donc, dès que la voiture de police passe à proximité de votre voiture, elle sait qui vous êtes. Quoi. Donc, elle vous identifie, si vous accélérez, un accès de vitesse. En étant derrière, elle sait déjà à qui appartient la voiture. Voilà, enfin, il y a une autre image en haut à droite, où là, c'est tous les 100 mètres, une borne,
voilà.
Une borne RFID, qui donc détecte... le moindre évolution, donc c'est pour voilà, c'est pour gérer le flux soi-disant, hein. Bon, avant je sais pas, avoir un péage ou... mais c'est aussi moi personnellement dans ces cas je ne veux plus conduire, je préfère être dans une voiture automatisée, justement Minority Report, la voiture automatique, on monte dedans, parce que si entre deux bornes on dépasse un peu si les bornes sont à 100 mètres il y a un portique à chaque fois, donc on est vraiment
il y a des radars tous les 10 mètres quoi, sur 100 km, il faudrait toujours.
Voilà, ouais, une route où il y aurait des... Ouais, exactement, une route, un radar tous les 100 mètres.
C'est
ouais.
Bon l'affaire comme un truc artistique. C'est un radar sur 10 km.
Voilà.
Essayer de rouler dedans, sans se faire flasher,
ce serait dur. Ce serait dur, très dur, oui. C'est des propositions, mais à terme, effectivement, on rentre dans le côté... c'est comme la voiture qui freine automatiquement. Enfin, on s'approche de cette idée de voiture automatique. Et puis, si en plus, il y a les systèmes de gestion de ça, bon, ben, c'est... C'est pour bientôt. En même temps, bon, toujours, on est un peu dans le pré-crime et dans les erreurs que ça implique. Enfin, quand vous pouvez être au volant d'une voiture d'un ami, vous faites arrêter, c'est la voiture de police va détecter la voiture d'une autre personne. Déjà, on va dire, ah, mais non, mais vous n'êtes pas monsieur machin, mais c'est pas votre voiture. Je parlais de ça dans une autre journée comme ça de discussion et il y a une femme qui m'avait dit, ouais, en fait, j'ai eu un ennui comme ça, c'est dans mon entreprise, on a tous des puces RFID dans notre passe. Et un jour, je demande à ma collègue de boulot, ah, je peux te prendre ta voiture pour aller, je sais pas, au bureau de tabac ou autre chose. Ok, alors elle passe au, elle bipe sa carte pour sortir. Elle va dans le parking, elle prend la voiture de sa collègue, elle passe, ça arrive à la porte, ça bipe, et là le porte se bloque et dit non non, vous êtes toujours à l'intérieur de votre bureau, parce qu'évidemment c'est pas la même personne qui conduit la bonne voiture. Donc la barrière ne voulait pas la laisser sortir parce que c'était pas la bonne personne au volant de la bonne voiture. Ah, ça marche, ouais, mais ça entraîne. Non, mais on voit ce que dire, c'est après on peut voir les potentialités d'accident, parce qu'après l'accident est interdit. Moindre problème.
C'est la faute qui est interdite.
Oui. Oui, il n'y a plus d'accident possible. Enfin, s'il y a un accident, c'est pas notre voiture. On avait pré-identifié le problème à venir. Il y a une faute, quoi. Donc, l'accident devient de plus en plus problématique pour sortir de la galère si on se retrouve dans une situation où on n'est pas parfait, c'est-à-dire pas au volant de sa propre voiture, pas ceci, pas cela. Donc, vraiment, là, l'accident devient très, très difficile à gérer. Bon. Pour sortir de ça, il y a juste un exemple qui est intéressant, c'est la faculté des sciences d'Amsterdam. Il y a des gens qui ont développé un projet de virus RFID pour montrer à quel point le système n'est pas si fiable que ça, justement pour ce genre de questions. Donc c'est le site rfidvirus.org, hein, si vous avez l'occasion. C'est donc en gros, ils injectent dans le RFID un virus informatique, assez standard, un truc qui tient un kilooctet, enfin, ils ont concentré le code maximum pour faire un worm, un machin, un truc, et donc qui peut, en faisant des tests ou en arrivant dans le système d'un paiement de supermarché, le virus va cracher le système de paiement, ou dans le traitement des bagages dans un aéroport, donc avec la potentialité de masquer. De passer un bagage qui sème le trouble et passer derrière un autre bagage avec une bombe, ou de mettre une valise et elle devait partir à Buenos Aires et elle part en fait à Tokyo, enfin de semer un désordre monstre. Donc voilà, avec en soulignant que ça peut infecter une chaîne logistique, hospitalière, d'élevage, sécurité, environnement intelligent, etc. C'est des ingénieurs en recherche développement, hein, leur travail c'est aussi pour, ils montrent le pire pour trouver du travail, pour montrer qu'ils peuvent améliorer la fiabilité, la sécurité du système RFID. Derrière ils proposent un système qui s'appelle RFID Guardian. Enfin, le RFID Guardian c'est pas simplement une amélioration d'un système de sécurité, c'est aussi un truc pour garantir la vie privée. C'est-à-dire que quand on a des RFID sur soi, avec le RFID Guardian, il masque les RFID quand vous ne voulez pas qu'ils soient visibles. Par exemple, je sais pas, j'ai des RFID que je suis content d'avoir dans mon téléphone ou dans mon environnement chez moi, justement. Mais tu veux pas que quand tu descends dans le métro, on t'identifie. Donc hop, tu descends dans le métro, tu actives ton RFID Guardian et il masque tes RFID. Firewall RFID, voilà. Donc ça c'est intéressant, j'avais quelques échanges avec eux, c'est assez intéressant leur approche.
Il suffit d'une plaque
d'aluminium pour... Oui, il y a une plaque d'aluminium ou des métaux qui coupent les signaux radio, c'est aussi une autre option.
Des textiles. Il y a des textiles
type Flectron blindé, des textiles qui dans lesquels on taille par exemple les tenues de pilote. Qui protège des ondes radio, donc qui isole aussi. Donc c'est vrai que il y a déjà des gens qui sortent ça, quoi, des pochettes pour les passeports biométriques, des pochettes en tissu Flectron. On glisse son passeport et du coup il n'est plus traçable. C'est pas mal. Donc le côté se cacher derrière un RFID Guardian, mais alors il y a une notion qui a été introduite aussi, c'est la notion de surveillance. C'est assez ambigu parce que c'est un peu plus ou moins promu par des gens qui sont plutôt dans la branche technophile, hein. C'est comme on parlait avec tout à l'heure d'Atao Tanaka et de des petits appareils photo et de c'est typique de un peu de quelque chose de la surveillance. Alors surveillance, c'est à la fois valoriser le côté multimédia de d'avoir des objets portables, des captures d'images et de sons, mais en même temps c'est aussi enfin le téléphone portable, ça devient un transpondeur que dont la police peut utiliser les données. Enfin, on connaît par exemple déjà depuis quelques années sur les coups de téléphone, hein, mais je sais plus, Colonna, le Corse qui s'était fait retrouver parce qu'il avait passé un coup de fil portable au fin fond du maquis. La surveillance, si tu veux, c'est la caméra dans le coin. La surveillance, c'est quand ça passe par les équipements que tu as embarqués sur toi. Donc là, quand on était dans la détection d'un téléphone portable, on était dans la surveillance, puisqu'on localisait un téléphone portable. Mais dans la surveillance, ça va être, puisque maintenant on a des téléphones qui filment, qui font des photos, qu'on transmet. La police, maintenant, je sais pas, on est sur une scène d'un accident ou d'un crime. La police peut demander à l'opérateur télécom toutes les personnes qui ont fait des photographies et de la vidéo sur ce site-là, à ce moment précis, à cette heure-là. Voilà, donc, et ils ont même, ça développe des logiciels de recomposition d'images en 3D, avec les multiples prises de vue caméra, tous les gens qui filmaient, on recompose la scène à partir d'associations, comme on peut faire une photo panoramique en recollant. Donc ils développent des softwares assez compliqués pour faire de la recomposition d'images pour les enquêtes. Donc voilà, ça c'est... Donc c'est vraiment on est opérateur de la non-surveillance, mais on est opérateur de la surveillance, sans le vouloir.
La surveillance comme un concept de résistance aussi.
Oui, c'est ça, c'est un truc ambigu. Il y a un concept de résistance, c'est-à-dire filmer et faites de la contre. Moi, j'appellerais ça de la contre-surveillance. Si tu, voilà. Si tu filmes ceux qui te surveillent.
Souvent, par exemple, ce mec, c'est un cyborg, quelqu'un qui est interdit par la technologie au Canada. Il est interdit de territoire américain maintenant. Donc, à chaque fois qu'il va dans un endroit où il y a une caméra qui le filme, lui, il filme. Il dit, si vous me filmez, moi, j'ai le droit de vous. Si je vous donne le droit de me filmer, ben, j'ai le droit de vous filmer. Et en général, aux États-Unis, c'est interdit de filmer dans les grandes entreprises. Et donc, la police arrive, il y a des caméras de télévision qui viennent, qui filment justement, qui créent des situations d'arrestation pour mettre à jour les problèmes de réciprocité que ça a.
En fait, il y a aussi l'ambiguïté sur le thème. Eux, ils ont tendance à utiliser sous-veillance en disant que ça vient du français.
Ouais.
Et voilà, sous-veillance, que ça vient du français. Moi, j'aurais tendance à utiliser le terme surveillance, à dire que ça, c'est de la contre-surveillance, et d'utiliser le terme surveillance pour parler des cas où la police va pouvoir demander toutes les photos, les vidéos que vous avez transmises. Oui, il y a moi, j'ai pas les textes de loi, mais ils peuvent demander à un opérateur télécom toutes les coups de fil, la liste des coups de fil, la liste des données transmises, éventuellement, si c'est des cas criminels ou des cas de terrorisme. Demander là les photos transmises, les prises de vue vidéo, tout était bon. Si c'est prise de vue vidéo qui s'est pas transmis, ils peuvent pas le savoir. Mais s'il y a transmission à un moment donné, ils peuvent demander de voir ça aussi. Donc là, on est dans la surveillance puisque c'est là ils ont une caméra embarquée, qu'ils ont pas positionnée. Mais c'est nous-mêmes qui sommes opérateurs malgré nous.
Y a un concept, c'est participatory surveillance.
Ouais, c'est ouais, c'est la même chose. C'est... Voilà. Donc il y a un problème encore sur les termes, c'est vrai, mais on est dans cette question-là. Je vais terminer un peu sur la question encore plus futurologue, sur la question de. Dans un futur plus ou moins moyen terme, long terme. Avec ces scénarios de la croissance exponentielle de l'informatique, où on estime cette fameuse histoire de la singularité, le point où l'ordinateur sera plus puissant que le cerveau humain. Donc on calcule, maintenant il y a des estimations, voilà, c'est 2030, 2040, enfin. Dans le graphisme, quand la croissance, là, on en est à l'équivalent d'un, one man's brain, one insect brain, avec une perspective à l'équivalent d'un cerveau humain, avec un 2040, 2060. Enfin, c'est ce qu'on appelle le point de singularité Donc c'est toutes ces idéologies transhumanistes qui sont autour de ça. Avec ce que ça implique, hein, évidemment, derrière, le côté obsolescence de l'homme, mais... et le côté surhomme, voilà. Donc là, on avait la singularité, c'est-à-dire un insecte, l'équivalent d'un insecte. Donc on a des robots insectes aujourd'hui qui sont développés, là, par exemple, en biorobotique à Tokyo, d'implanter des cafards avec de la robotique pour contrôler leur mouvement complet. Ils pourraient porter des mini-caméras et on pourrait les guider pour à des fins militaires ou sanitaires, les envoyer dans les champs de bataille, les faire entrer dans un bâtiment avant d'envoyer les soldats, on fait rentrer une insecte caméra qui est complètement pilotée. Là, on est dans un point de vue de singularité insecte. Hein. Le robot a dépassé la technologie, le numérique est capable de contrôler un être vivant. De même, on n'en est pas là sur les requins, mais par exemple ici, c'est la DARPA, qui est le département recherche de la défense américaine, qui a implanté des requins pour suivre des embarcations ennemies, des bateaux, et de les détruire. Donc ça permet de manipuler les mouvements du requin, hein, grâce à une série d'électrodes et qui vont le contrôler avec une antenne extérieure. Ou alors encore des rats, de la même manière, là ça va être stimulation de la zone du cerveau en fonction de le système récompense-punition. Hein, donc du coup téléguider le rat en stimulant son centre du plaisir, ainsi on le dirige gauche-droite pour l'envoyer pareil dans un champ de bataille ou dans les tuyaux pour explorer un bâtiment, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc on est dans cette situation de capacité à piloter des animaux, hein, donc à être l'informatique devient supérieure à leur capacité de traitement. Donc adaptation, alors si on arrive à la question humaine là-dedans, une question de singularité, donc il y a un personnage un peu célèbre, un peu controversé, Kevin Warwick, qui travaille en Angleterre, groupe de recherche sur l'intelligence et la cybernétique, et qui s'utilise lui-même, donc il est chercheur, mais s'utilise lui-même comme cobaye pour tester ses différentes techniques, implants, contrôle du bras par la robotique, des mouvements de son propre bras, etc. Donc lui, il a des propos toujours assez fumeux sur le futur technologique. Donc là, à droite, c'est une image d'application. Hein. C'est comment téléguider les bras de militaires sur des champs de bataille qui n'ont pas la connaissance d'ingénierie pour pouvoir contrôler un appareil, un système sophistiqué, même, ou une opération chirurgicale et tout ça. Donc avec ce côté bras cyborg qui serait pilotable depuis à longue distance. Par un expert. Pardon.
Détourné par l'ennemi pour faire envoyer une bombe.
Donc Warwick, il parle d'un truc, c'est assez curieux, ça, pour conclure, hein, mais il parle de cyborg télépathe. Il dit que, en gros, la télépathie, c'est la prochaine révolution de la communication. Puisque si on se fait implanter un processeur dans le cerveau, on peut, du coup, communiquer avec son environnement intelligent. On a RFID, les objets communicants, nous-mêmes devenant un objet communicant, on passe par un réseau, un Internet des objets, et donc, j'envoie une information au premier objet le plus proche, je ne sais pas, cet ordinateur, qui lui-même renvoie, fait un relais. Donc on est complètement, comme les autres objets, connectés à cet environnement intelligent, et donc on peut envoyer une commande, dire une action à distance. Là, c'est plus donc là, on revient sur nos débuts, sur la maison intelligente, où on a l'implant qui... Donc, on est quand même dans une... Et donc, ça introduit la notion de télépathie, parce qu'à un moment donné, à force de passer par tous les objets, on arrive à la personne qui est à l'autre bout de la pièce, et ce que je suis en train d'envoyer comme message via cette puce et ce réseau intelligent, l'autre reçoit le message sans qu'on ait eu besoin de parler, quoi. Donc, on est dans donc une sorte de télépathie technologique... Voilà quoi. Donc, Warwick dit le réseau deviendra comme une sorte de mémoire annexe du cerveau, une source de données extrasensorielles Internet des objets, hein, tout ça. Et nos capacités de communication ont décuplé. Donc là, nos téléphones portables deviendront complètement obsolètes et on aurait une dimension voilà, de cyborg télépathe. Bon, j'arrête là, je te passe la.
Ok.
Allô ? Voilà. Il est 22h08. Alors, moi, je vais faire beaucoup plus court pour présenter simplement quelques matériaux et applications qui sont reliés à ce que tu viens de dire. Le son, c'est pas la peine, en fait. Non. Détecter les moniteurs. Patienter. Excusez-moi. Activer la recopie vidéo. Présentation. Diaporama. Voilà, donc je vais vous parler d'objets communicants et plus particulièrement de deux types d'objets, les vêtements ou le textile et le mobilier. Voilà, donc très rapidement, je vais parler de deux grandes choses. Cette idée qu'au XXe siècle, il y a eu l'apparition, grâce aux ordinateurs, du concept de programmation, qu'on peut programmer. Et programmer, littéralement, ça veut dire écrire ce qui va se passer dans le futur. En fait, c'est comme prédire, c'est comme dire à l'avance, programmer, c'est faire que notre action va déclencher une autre action dans le futur. En fait, c'est déjà être dans le futur de programmer. C'est pour ça que les programmeurs aiment bien la science-fiction, parce qu'ils se projettent déjà dans le futur. Et je parlerai de l'interaction dans le milieu familial. Donc, programmer le réel, pour faire le lien avec ce que tu disais sur les bio-automates, sur le fait que on veut savoir ce qui va se passer comme comportement dans le futur. Ça existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Dès qu'il y a eu la maîtrise de l'électricité et de l'information, on a voulu effectivement influencer, contrôler ce qui se passerait dans le futur. Parce que le maximum de la sécurité, c'est le contrôle total. Si je sais ce qui se passe exactement dans les 10 prochaines années, je sais exactement qu'il n'y aura pas de problème de sécurité. Donc ça peut, notamment dans le milieu militaire, c'est un idéal. Et donc il y a beaucoup de travaux en ce qu'on appelle en zoomécatronique, c'est-à-dire le fait qu'on va coupler un ordinateur ou une machine avec un animal, donc la machine et le vivant. Et donc ça, c'était très à la mode dans les années 50. Et l'inventeur du premier écran d'ordinateur, avant de fabriquer des écrans d'ordinateur, il mettait des ordinateurs dans les rats des robots. Donc c'est intéressant de voir la filiation de ça. Il a inventé aussi ce qu'on appelle le HMD dans les années 60, c'est-à-dire un écran à projection rétinienne qui permet de voir des images en 3D autour de nous qui n'existent pas. Donc c'est l'objet illusion parfaite. Il y a deux verres, un des deux n'a pas de substance. Voilà, pareil, l'inventeur du Media Lab du MIT, sa première installation artistique, c'est des petits rats, gerbils, en anglais téléguidés, avec une installation que les visiteurs pouvaient téléguider des rats. Donc c'était très amusant pour les enfants. Toujours l'idée du pouvoir et du contrôle, hein, c'est je sais où ira ce rat dans le futur. Je suis puissant, je peux prédire le futur, je suis plus qu'humain puisque je suis déjà dans le futur. Ensuite, dans les années 80, au Xerox Park, Mark Weiser, donc cette personne dont tu parlais tout à l'heure, qui a inventé le concept du ubiquitous computing, finalement, c'est de dire que ces robots, qui en général étaient anthropomorphes, ressemblaient à l'humain ou à des animaux, c'est le monde entier qui va devenir un énorme robot, une machine programmable, avec laquelle on pourra interagir, soit effectivement en pensant de manière très très subtile, même parfois la machine devançant nos propres désirs, sachant plus mieux que nous ce qu'on veut ou ce qui est dangereux pour nous. En fait, pensant à notre place. Finalement, c'est ça. Derrière l'intelligence artificielle, il y a l'ambiguïté du mot intelligence en anglais, qui en fait signifie renseignement. C'est-à-dire, intelligence en anglais, c'est intelligence services, c'est les services secrets. C'est pas les services intelligents, c'est ceux qui savent c'est pas ceux qui réfléchissent. Donc en français, on a traduit ça un peu dans les deux, c'est-à-dire que...
Maintenant, le terme intelligence, justement, commence à être utilisé en français. On parle d'intelligence économique.
Intelligence économique,
on
exactement.
On commence à utiliser les termes voilà. De l'espionnage ou des services secrets, des services de renseignement américains.
Voilà, et donc, artificial intelligence, c'est d'abord une technologie militaire. C'est d'abord savoir, préempter, connaître le futur. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine de la futurologie, qui disent que le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de l'écrire ou de le contrôler, c'est-à-dire de le programmer. Donc, tout ça pour dire qu'il y a ces fantasmes de dire que on va pouvoir prédire le futur. Et pour l'instant, programmer, ça permet d'actionner des machines, ça permet de faire changer les pixels sur un écran. Et dans les années 90, il y a un chercheur américain qui s'appelle Neil Gershenfeld, qui est directeur du Center for Bits and Atoms, qui dit que dans le futur, les atomes seront comme des bits d'information. Et donc, de la même manière qu'on peut programmer des pixels sur un écran, on pourra programmer tout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des instructions dans le monde entier pour tout, que ce soit du vivant, du pas vivant. Et un des exemples de travaux justement entre Neil et Gershenfeld et Mark Weiser, c'est ces M&M's que je montre en photo sur l'écran, qui sont des petits actuateurs électromagnétiques dans un champ électromagnétique programmable. Et donc, en appuyant sur un bouton, on passe d'un plat de M&M's à une tasse. On peut reconfigurer en temps réel des objets dans l'espace pour faire changer de forme n'importe quel objet. Et donc l'idée, c'est de dire effectivement cette vision du futur où cette table, pour l'instant, a une forme de table, mais si je pense à quelque chose d'autre, elle pourra avoir la forme de n'importe quoi. Donc cette idée du contrôle total, donc après la télépathie, la télékinèse finalement, cette idée que on peut même communiquer aux objets la forme qu'ils auraient, la fonction qu'ils auront. Et donc ça, c'est un horizon qui dirige la recherche finalement, un grand tiers de la recherche européenne à l'heure actuelle. Et si vous voulez de l'argent pour faire de la recherche européenne, il faut aller voir l'Union européenne, leur dire voilà, je vais faire le réseau ambiant, intelligent, et je vais fabriquer les technologies qui le permettent. Donc par exemple, en Suisse, à l'ETH, qui est l'école polytechnique de Zurich, où ils font des ordinateurs qui rentrent dans ce form factor. Donc ça, c'est un ordinateur complet qu'on porte sur soi et qui correspond avec une myriade de petits capteurs, dont un qui s'appelle Teco, qui est l'équivalent d'un projet américain qui s'appelle Smart Dust. Et ce sont des ordinateurs qui sont grands comme un grain de poussière. Donc l'idée, c'est une technologie militaire. On passe au-dessus d'un champ de bataille, on les disperse et instantanément, on a un réseau informatique qui permet aux soldats et aux gens autour de communiquer, de distinguer qui sont les ennemis de qui ne le sont pas. Et pourquoi c'est intéressant, c'est de se dire que finalement, toutes ces technologies sont développées dans des écoles d'ingénieurs qui travaillent en gros pour la technologie militaire. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la créativité, la recherche militaire est à l'origine d'une énorme production qui est liée au sujet dont on parle ce soir. Donc c'est intéressant de voir finalement les désirs, les fantasmes d'un projet militaire et d'un projet culturel social qui ne sont pas forcément les mêmes, en sachant que l'argent qui va financer tous ces projets au départ va financer des projets militaires. Donc, et c'est beaucoup d'argent, c'est même des sommes énormes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu prenais l'exemple de ce chercheur du programme Guerre des Étoiles, Internet ou les ordinateurs, les financements américains qui l'ont fait, c'est des financements militaires. Et il y a toujours eu un cerveau comme ça, une grande personne, au numéro 3 ou 4 de la recherche aux États-Unis, qui a dit on va avoir Internet. Et par exemple, il y a un chercheur américain très connu qui parlait du réseau intergalactique. La vision d'Internet vient d'un fantasme, d'un désir presque SF de quelqu'un avec énormément d'argent et de pouvoir. Donc, si des écrivains de science-fiction avaient plein d'argent et de pouvoir, ça donnerait ce genre de choses. Et c'est drôle de voir que c'est ce qui se passe dans la réalité. Un autre exemple de dire, je pense à quelque chose et dans la vie réelle, on va avoir des objets qui vont correspondre à ce que je pense, c'est le prototypage rapide. Il y a une boîte qui s'appelle Z-Corp aux États-Unis qui, l'idée, c'est une machine par des bains successifs qui va pouvoir imprimer en 3D des objets. Donc l'idée, c'est au lieu d'avoir des pixels sur une surface, on a un modèle en 3D dans un ordinateur, on appuie sur un bouton, on attend une heure, et hop, on a un objet, comme celui qu'on voit ici, qui est composé de parties fonctionnelles. Maintenant, il y a des machines qui permettent d'imprimer de l'électronique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imprimer un ordinateur de toute pièce, imprimer des RFID, bien sûr, donc pour les modifier, pas que de manière logicielle, mais aussi hardware. Donc voilà, et l'idée c'est que ensuite pour interagir avec ces machines, on peut les toucher, les programmer directement par imitation ou par des mouvements. Donc on n'a même plus besoin forcément de passer par un système de type ordinateur ou des interactions telles qu'on connaît. On va pouvoir directement dire par exemple, je prends ma table, je lui informe un mouvement, ça y est, elle va conserver ce mouvement, elle va avancer par exemple. Donc ce genre de choses. Une autre technologie intéressante c'est le textile. Tu parlais des ondes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'information va aussi circuler par des réseaux qui ont une certaine matérialité. Par exemple, c'est l'idée des personal area network ou body network. À la surface de notre peau, en fait, l'électricité peut passer parce qu'on a finalement un milieu qui le permet, et donc pourquoi pas faire passer de l'information. Donc l'idée par exemple, qu'il y ait plein de prototypes de designers, on se serre la main et ça y est, on a échangé nos profils, nos cartes de visite, donc le réseau suit. Voilà, c'est il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont hacké leur corps comme ça pour modifier justement ce que ça faisait. Il y a l'idée aussi d'utiliser les vêtements comme un maillage, un réseau. Récemment une université américaine a fait des fibres textiles qui sont des transistors. Et le transistor, c'est l'élément de base pour fabriquer un ordinateur, la computation. Donc on peut imaginer dans le futur avoir des vêtements qui seront vraiment des ordinateurs à part entière. Il y a des fibres qui sont des batteries maintenant. Et pourquoi pas dans le futur des fibres qui soient des panneaux solaires. Cette idée que l'ordinateur va changer de forme et les objets vont également changer de nature. Il y a beaucoup de théoriciens qui parlent, on prend Michel Serres, je pense, qui parlent de quasi-objets, qui disent que l'information et le fait que les objets vont pouvoir devenir dynamiques vont changer la nature des choses. C'est-à-dire que un enfant de 3 ans, on lui montre un robot, il ne sait pas trop comment le classer. Est-ce que c'est du vivant, est-ce que c'est un objet? Un enfant jeune en ce moment, il va avoir des problèmes pour classifier un certain nombre d'objets. Un enfant dans 100 ans, si les objets ils sont liés à de l'information, peuvent changer de forme, il va avoir encore plus de problèmes. C'est-à-dire que ce sera quoi le vivant? Ce sera quoi ce qui est précieux, par exemple, de ce qui ne l'est pas au niveau du vivant? On va changer toutes ces définitions. Donc là, je passe vite sur des projets de vêtements et de choses communicantes. Alors, juste un aparté, il y a Morin dans la salle qui fait des vêtements comme ça. Donc si ça vous intéresse de parler avec lui. Je pense qu'on n'a pas trop le temps pour présenter trop de choses. Mais voilà, qui est au fond. Là. Voilà, donc maintenant je vais finir sur tout ce qui est un peu interaction dans la famille. C'est une application de toutes ces technologies. Donc voilà, la vision c'est ça, hein, c'est on est dans la cuisine et de manière pratiquement comme un fantôme, il y a le réseau et l'information qui est là. Alors cette photo elle est assez intéressante, hein, elle vient d'une université américaine où justement tout est très simple, tout est très propre. On fait la cuisine avec la recette, mais finalement on a les mains propres, on n'a même pas d'outils, on est dans une salle d'opération presque, hein. C'est de la rationalisation, c'est l'information optimale finalement. Donc c'est intéressant de questionner le désir qui a précédé toutes ces recherches de design. En France, il y a des recherches comme ça dans des labos du CNRS ou de l'institut qui s'appelle INRIA, qui est mon employeur en ce moment, où on essaye de réfléchir à qu'est-ce que c'est des objets qui permettent par exemple à des familles de rester en contact à distance, qui permettent de communiquer. Ça part du constat simple que quand on est jeune maintenant, 17, 18 ans, on va peut-être aller faire ses études dans une autre ville, puis peut-être après on va s'installer dans une autre ville parce qu'il y a le train, il y a des moyens de transport, l'avion, et on sera pas forcément dans la même maison que ses parents et ses grands-parents comme ça aurait pu l'être dans d'autres générations. Et donc on va devoir rester en contact, et c'est quoi les alternatives au téléphone pour rester en contact avec sa famille, ses proches. Donc il y a beaucoup de projets comme ça, de ce qu'on appelle des media space, donc des écrans qui vont permettre aux gens de vivre à côté, côté les uns des autres.
Un groupe qui s'appelle HE, ils ont fait ce miroir.
Alors c'est ça en fait.
Mirror
en fait,
space, c'est ça.
Voilà, Hélène et Aiko. Alors c'est ça en fait, c'est l'image qui est ici.
Ouais, d'accord.
Et en fait, eux, ils sont designers et ils ont été embauchés par mon labo en fait. pour faire le miroir. Donc c'est un projet du CNRS et de l'INRIA. Bien, voilà, ben en fait ils ont été embauchés pour designer l'objet. Et donc c'est intéressant. Moi quand j'ai vu la première fois, je trouvais que ça ressemblait à un énorme tag RFID comme ils l'ont fait. C'est drôle. Je pensais que c'était un truc critique. On voit pas très bien sur la photo là, mais c'est un circuit en fait, le miroir. Et l'idée c'est qu'il y a une caméra au centre. Et quand on arrive, ben c'est comme de la visioconf, hein, c'est cette idée. Il y a pas de son par contre. Donc c'est à dessin. L'idée c'est on arrive. Si on est loin, c'est flou. Et quand on s'approche, il y a un capteur à ultrasons de distance, un radar en fait, qui envoie un signal qui est répercuté sur nous et qui va capter et qui va progressivement faire apparaître le correspondant si on est prêt. Donc l'idée c'est quoi? C'est que cette idée de protéger peut-être un peu la vie privée, de dire que s'il y a un écran, une caméra qui filme en permanence chez mes parents par exemple, et moi j'habite à Paris, j'ai pas forcément envie que mes parents ils voient tout ce que je fais. Il y a des problématiques de vie privée. Donc là l'idée c'est plutôt que de ne rien mettre, on va mettre une silhouette, une surface, pour si quelqu'un passe dans le fond, ben moi je peux m'approcher et faire oh viens me voir, je suis là. Donc l'idée d'un milieu intermédiaire finalement, qui n'est pas privé, qui n'est pas public, et qui correspondrait plus à des définitions publiques de l'intimité, comme les travaux d'un psychiatre français qui s'appelle Serge Tisseron, qui parle maintenant de l'intimité publique. Il a inventé ce concept des extimités, c'est-à-dire c'est une intimité mais qu'on va décider de montrer. Donc c'est un nouveau niveau entre soi et les autres, entre ce qu'on décide de montrer ou décide de conserver pour soi. Et évidemment, toujours cette idée de communication versus information versus intelligence. Plusieurs niveaux d'automatisation de la machine sur ce que nous, on va faire. Et notamment, un exemple que je cite souvent ici, j'aime bien. C'est un projet assez récent. Ils ont fait toute une cuisine, ils ont eu beaucoup d'argent de fabricants de cuisine pour faire la cuisine du futur au MIT. Donc ils ont fait la cuisine, par exemple, qui, quand on va approcher une poêle, un récipient du robinet, l'eau change de couleur en fonction de la température, parce que attention, on aurait pu se brûler. On aurait pu se brûler, c'est dangereux. Et si c'est dangereux, c'est pas tolérable si on est américain. On peut pas acheter un équipement dangereux. Et donc, cette problématique du danger a été poussée à son extrême dans ce projet, puisque cette cuisine, elle correspond à ce que tu disais tout à l'heure, elle est persuasive. Donc, l'idée, c'est que les objets vont nous dire ce qu'on va vouloir manger. Un certain nombre de dispositifs vont monitorer tout ce qu'on fait pour nous dire, ah, attention, je sais que tu vas faire ça, mais ne le fais pas. Fais plutôt ça. Donc l'idée de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une intelligence qui va penser à notre place. Et donc ça paraît ridicule quand j'en parle comme ça, sauf qu'il y a d'énormes budgets américains, notamment à Stanford, il y a le laboratoire de persuasive technology qui est en train de défendre ça, qui dit finalement les gens ne savent pas ce qui est dangereux pour eux. Et donc l'argument inverse, mais si... on peut prendre aussi l'argument théorique qui est de dire que l'inverse est le même, qui est de dire les gens ne savent pas ce qui est bien pour eux. Donc on va les aider à réfléchir, on va les aider à penser. Et on va faire des objets, des technologies qui vont aider les gens à penser. Et là, on rentre dans l'intimité, pas forcément du corps somatique, mais l'intimité presque de la liberté de conscience, de choix et de se tromper.
J'étais à une conférence et il y avait une présentation de Persuasive Mirror par...
par Accenture. Alors Accenture, c'est très simple. Ils ont pris Mirror Space. Ils ont pris les théories justement de ce labo à Stanford. Ils ont étudié, d'ailleurs, ceux qui ont développé ce miroir. Tourné la sauce marketing et voilà. Et donc, c'est le miroir. On se regarde dedans. Il analyse un peu... comment en est la mine qu'on a et tout ça.
On rentre ce qu'on a mangé.
Ce qu'on a mangé, alors évidemment, monitoring, biomonitoring, et il va nous dire, ah tiens, t'as pas bonne mine, qu'est-ce qui se passe.
Donne le visage dans 10 ans. Ou...
Et regarde si tu continues, comment
même
tu vas.
Une cigarette, tu fumes par jour. Voilà. Ah, t'as mangé trop.
Et donc, il va...
ce matin, petit déjeuner, regarde la tête que t'auras dans 10 ans.
Voilà, et alors, ce qui est intéressant, c'est le succès médiatique de ce projet. Le succès même presque en termes de financement.
Moi, je l'ai vu en conférence et j'étais dans la conférence. Bon, c'est un truc artistique. Tout à l'heure, je montrais un truc de canular, Forget Me Not, machin. Mm-hmm. Donc, tu vois tout ce truc. Puis, je croyais que c'était un canular au début. Je me dis, ah non, c'est une vraie... Putain, sophistiqué, ce... Tu sais, tu commences à être habitué à voir des faux trucs.
Et en fait, non, c'était réel.
Alors, c'est très drôle parce qu'on les a invités, justement à une conférence sur les interfaces homme-machine en France. On a invité Accenture sur un débat sur ça, sur la vie privée, les technologies un petit peu ambiantes du futur. Et déjà, ils n'avaient pas le droit de nous parler de ce qu'ils faisaient. Alors là, pour le coup, on était dans le secret, mais à un sens. Et c'était assez gênant pour les gens qui l'ont développé, que ça a été repris par Accenture finalement comme ça, parce que pour eux c'était un exercice de style au départ. Et en fait les clients ont dit mais c'est génial, on veut ça. Les clients d'Accenture ont dit on vous donne de l'argent, développez-le. Alors que c'était présenté parmi plein d'autres technologies qui présentaient un horizon finalement de ce qui est possible. C'est presque de la science-fiction ça.
Parce que dans ce truc-là, il y a ce truc de montrer la tête dans 10 ans et tout ça, il y a aussi l'esthétique quoi, les canons esthétiques de la beauté humaine, etc. Enfin, il y a tout un truc.
C'est ça, c'est-à-dire.
On montre votre laideur dans 10 ans, attention. Comment être beau encore dans 10 ans,
voilà.
c'est quoi la beauté, comment on se représente.
Tout à fait, c'est comment se conformer. Vous ne vous conformez pas. C'est toujours une idée de contrôle social. Toujours dans les vêtements, beaucoup de recherches sur aussi l'évolution des vêtements en fonction de l'électronique, des technologies, de l'identification, du changement de qu'est-ce que c'est publier socialement ce qu'on est ou ce qu'on veut faire croire qu'on est à d'autres gens. Ça passait auparavant par des choses qui étaient plutôt de l'ordre visuel, on regarde les gens. Si tu es en train de discuter avec quelqu'un d'autre, moi si je suis à 10 mètres, je regarde de loin, je me dis tiens, ils discutent, peut-être que je ne vais pas aller les déranger. Et toujours cette idée que maintenant, le vêtement pourrait dire mon statut, comme sur Messenger, je suis busy ou pas, ben là, mon vêtement pourrait dire non, t'approches pas mec, je suis en conversation, je ne suis pas là en fait. Tu me vois, mais je ne suis pas là. Toujours transporté.
Oui, ou si tu es dans la même communauté sociale, tu as
le
signe.
Voilà.
Tu es mon friend sur MySpace.
Friend sur MySpace, tu peux me parler sinon.
Tu peux me parler, tu as le petit truc vert aussi qui s'allume quand tu passes à côté de moi.
Voilà, du matchmaking. Exactement, toujours cette idée qu'on va programmer ce qui va se passer. C'est-à-dire que si je mets un signe électronique, je veux vouloir contrôler qui va venir me voir. Donc, c'est supprimer le risque, l'incertitude, l'imprédictibilité, ce qu'on ne peut pas prédire. Et finalement, c'est être dans une rationalisation totale. Et pour finir sur ça, bon, un autre exemple de mobilier, ce qu'on fait dans mon labo, c'est des tables aussi interactives. Vous avez certainement vu récemment des projets comme Microsoft Surface où on va pouvoir toucher l'information, elle va devenir palpable, on va être envahi d'informations de toutes parts. Et on va avoir l'environnement qui va nous aider à réfléchir partout, même dans des moments très intimes. On a fait dans mon labo, ça marche. Dans mon labo, on a fait par exemple des interfaces qui marchent dans le lit pour des couples qui sont à distance et qui voudraient rester en communication tous les deux. Donc ça peut aller très loin dans le lien qu'on peut maintenir et comment on peut influencer le comportement des gens. Et pour finir là-dessus, l'idée que au départ, je disais qu'il y a beaucoup de technologies qui viennent du milieu militaire. Et dans mon labo, qui est sur le plateau de Saclay, dont une partie n'est pas accessible sur Google Maps, puisque c'est marqué qu'on est dans la forêt dans Google Maps, mais moi je vous dis qu'on n'est pas dans la forêt parce que j'y vais tous les matins travailler. On travaille avec Thales, on travaille avec beaucoup d'entreprises militaires. Et depuis 5 ans, Thales, ils font toute une démarche d'interface homme-machine et ils ont inventé un concept qui s'appelle HIL, qui veut dire Human in the Loop. Auparavant, dans les systèmes de description militaire, une machine et un homme, c'était la même chose. C'était un opérateur. Et on ne pouvait pas différencier si c'était vivant ou pas. Et pourquoi ? Parce qu'un opérateur, ça exécute des ordres. On le programme, il opère, et il va faire ce qu'on lui demande de faire. Et ils se sont rendus compte qu'un humain, comparé à une machine, ben parfois, il fait des erreurs. Il en fait beaucoup. Et c'est parce qu'il fait des erreurs que parfois, il prend des bonnes décisions. Et ça, une machine, elle ne peut pas le faire. Et donc, ils ont réintroduit dans leur modèle des modèles d'erreurs, notamment dans les modèles nucléaires, les modèles de systèmes qui avant étaient ultra contrôlés à preuve. Maintenant, il y a des systèmes d'erreurs. Donc, ils ont réintroduit l'humain, l'incertain, le non-prédictible, le chaotique, parce que sinon, ça ne marchait pas. Et notamment, tout ce qui est
technologie spatiale, ils ont fait ça sur les modules martiens, etc., des trucs trial and error.
Voilà.
envisager l'erreur.
Et l'idée, c'est que l'homme, il est très fort pour gérer l'erreur en créant une méta-règle. En créant une, il apprend de son erreur que la machine ne peut pas le faire. Et donc, cet idéal rationnel, cartésien, scientifique du passé, déterministe, c'est ça le discours qu'il y a derrière toutes ces technologies, du contrôle rationnel, mécaniste. Alors que même les militaires, à l'heure actuelle, sont en train de ils sont en train d'en revenir pour se rendre compte que on peut prédire 100 choses qui vont arriver. On peut se dire c'est un de ces 100 trucs qui va arriver, mais on peut pas savoir lequel c'est. Et la science moderne et la science moderne c'est plus ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on est à un moment où les technologies dans le grand public ont 50 ans de retard sur ça. Et donc ce sera intéressant de voir si on va évoluer vers ce que les militaires font en ce moment au niveau des applications culturelles qu'on va avoir de ces technologies disséminées.
Il n'y a pas de perfection dans un environnement d'intelligence urbain. Il y aura toujours des trafics,
des modifications, chaos, des reconfigurations.
De l'imprédictible.
Du junk.
Même dans un environnement intelligent, des fois je rigole de voir des situations où c'est robotisé, il y a une porte automatique, il y a un truc complètement illogique dans la conception. Je vais au commissariat de police, j'avais une déclaration à faire, j'attendais. Dans le hall, il y avait une porte automatique qui ouvre. Et en fait, elle était trop près du guichet d'accueil.
Ouais.
En fait, la porte s'ouvre et le guichet d'accueil, il n'a même pas moins de 10 mètres, quoi. Parce que dès qu'il y a 5 ou 6 personnes de queue, et ben ils sont trop près de la porte et donc elle n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer.
Donc ils ont mis un scotch pour la faire fermer.
Non, donc elle n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se fermer. C'était en hiver, il faisait froid, donc tu avais toujours la femme de l'accueil qui faisait entrer. Donc ça, c'était, je suis allé l'hiver dernier, au commissariat, donc ça m'a bien fait rire pendant une demi-heure de voir la porte qui faisait puis tout le temps, entrer, la porte automatique, là, elle vous détecte, non, c'est pas bon, rapprochez-vous. Donc tout le monde est en train de se tasser pour essayer de.
Ok.
J'y retourne là, le mois dernier, et là, qu'est-ce qu'ils ont installé? Une grosse soufflerie d'air chaud au-dessus de la porte, parce que la seule façon qu'ils ont trouvé pour résoudre le problème, c'est d'installer une énorme soufflerie d'air chaud pour pas qu'il fasse trop froid à l'intérieur. Donc maintenant, elle peut s'ouvrir et fermer. De toute façon, tu rentres sous une pluie d'air chaud, quoi.
Donc c'est le problème du... peut-être c'est la première question qu'on peut poser. Jocelyne, si on peut poser des questions maintenant un petit peu pour du public. Cette idée que quand on programme, on est à un moment donné dans le temps. Et on doit anticiper ce qui va se passer dans un an, dans ce commissariat par exemple. Et l'idée, c'est que la vie, parfois, c'est contingent. Il y a des choses qui se passent qui sont imprédictibles, même par le meilleur des designers ou des programmeurs du monde, comme cette porte.
Oui, mais l'erreur de conception, c'est la porte ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On met une soufflerie d'air chaud. Non, on ne va pas l'enlever et mettre une porte à battant. Tu vois, un truc, tu sais, tourniquet.
Ah ben non, on ne peut pas
se garder. Qui garde toujours hermétique, tu sais, ces portes tournantes. Non, on va mettre un gros... Tu vois, tu parles d'économie d'énergie, tout ça, de gain. Non. L'écologie, le machin, Grenelle de l'environnement. Mais là, dans le commissariat, on met un gros truc d'air chaud qui sort en permanent. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ça m'a fait rigoler. Je me disais, voilà, c'est l'environnement intelligent, c'est pas gagné encore. Hein, mais...
Alors, peut-être ouvrir, si on a des questions dans la salle, alors, voilà, par rapport à ce qu'on a dit, ou des choses qui n'étaient pas très claires.
Des remarques, des...
C'est flippant, quoi, ce qu'on vous a fait peur, hein, avec nos... C'est pas vrai, ce sera mieux le futur.
Pour les plus intimidés, qu'est-ce qui empêche une machine d'enregistrer, un lecteur d'enregistrer le message de la puce et de la remettre pour faire passer pour cette puce?
Pour faire passer pour la puce.
Ouais, est-ce que tu peux squatter les puces de tes amis?
Je squatter les puces de...
Te faire passer pour une autre puce, tu l'écoutes, tu l'as copié, tu dis ça y est, maintenant je suis toi, je suis Kevin.
Le clonage de puces, ouais, ça se fait, le clonage de puces. Il y a eu des tas de... Enfin, j'ai même pas montré ça, mais c'est vrai qu'il y a il y a des gens qui ont démontré que vous pouvez cloner les RFID, donc même si on a un identifiant unique propre à soi, en fait c'est clonable.
Vous pouvez photocopier.
Ouais, c'est... on dit des clones de RFID. Mais ouais, des photocopies pour un passeport, un faux passeport ou tout ce genre de choses, quoi. Effectivement, c'est possible. Donc, et c'est loin d'être parfait, hein, cette technologie RFID. Et même, j'allais dire le Wi-Fi, là, avec Wi-Fi, c'est délirant. Wi-Fi appliqué au salon le VIP lounge des aéroports, hein, des business class, où les mecs ils font des transferts de bancaires en Wi-Fi dans le business lounge de l'aéroport, hein, transmettre leurs données bancaires par Wi-Fi. Le mec qui vient avec un intercepteur Wi-Fi.
Ouais, mais c'est crypté.
Non, c'est ça passe, hein. Et il y a eu, si j'ai lu dans la presse un article là, c'est grosse panique à l'aéroport de, je sais plus, de Heathrow sur cette question-là, parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait du sneaking, du sniff de données Wi-Fi et qu'il y avait énormément beaucoup trop de transferts bancaires dans les aéroports. Et donc maintenant ils se posent la question de comment sécuriser tout ça, quoi.
Jocelyne, peut-être ? Pas encore.
J'ai entendu qu'on pouvait casser les puces RFID, les détruire avec
un ongle ?
Un allume-gaz. Parce que ça génère beaucoup d'ondes électromagnétiques et que ça les amplifie. Enfin, le principe des puces RFID, c'est qu'elles amplifient les ondes électromagnétiques. Donc en les amplifiant un truc déjà assez important, bah, ça la fait exploser, quoi.
Ouais, ça même on peut en acheter maintenant, ce qu'ils appellent les RFID zappers. En fait, même avec un allume-gaz, je sais pas, mais avec un flash de, tu achètes un appareil photo jetable, avec un appareil photo jetable, tu peux flasher le RFID et le cramer, quoi.
Comme dans Men in Black.
Ouais. Et donc ouais, on va faire un petit, tout à l'heure, il y aura une petite démo de ce qu'est un flash au niveau électromagnétique. Mais ouais, alors c'est plus compliqué, c'est pas juste le flash, mais il y a un petit truc à faire, c'est un petit bricolage électronique, le démonter, trois circuits à faire. Le mode d'emploi peut se trouver sur internet pour faire des RFID zappers, détruire les RFID. Ouais. C'est tout à fait possible aussi.
Dans ta présentation, tu avais des billets équipés de RFID. C'est quoi, dans quel pays il y a des billets avec RFID?
Ah, c'était des billets de football, un billet de la Coupe du Monde de foot.
Des billets de football, d'accord.
Bien. Ouais, une question devant. Ah, le portable.
Tout à fait. Bon, ce que je voulais simplement, ce que je note, disons, dans tout ce que vous avez dit, c'est que notre vie privée va disparaître, grosso modo.
Va se transformer. Elle va devenir publique.
Qu'on aura de moins en moins d'initiatives à prendre, disons, la machine ou bien les éléments vont, je dirais, penser pour nous. Je trouve ça très inquiétant, parce que en fin de compte, c'est la disparition de l'être humain en tant qu'individu singulier qui va être mis en cause, et c'est Big Brother qui va nous contrôler. Tout à l'heure, j'entendais que vous me disiez pour être parfait, mais c'est surtout pour correspondre aux lois ou aux normes de la société. La perfection, moi je ne sais pas ce que c'est, hein, donc, mais par contre, pour qu'on soit vraiment
conforme,
tout à fait, et qu'on soit dans la règle, dans la loi, s'il y a des lois,
dans le cadre,
tout à fait,
dans la structure.
Alors la perfection, je ne pense pas qu'elle existe dans ce monde, je ne sais pas, hein, c'est une question philosophique. Donc ça veut dire que déjà ça va déjà alléger le dictionnaire, parce que intimité ou quoi que ce soit, ces mots-là vont être rayés du dictionnaire, hein, donc
si on prend même les scénarios de genre 1984 ou ce genre de bouquins de science-fiction, l'idée c'est que si on n'a plus à penser, bon, on a besoin de moins de mots même dans le langage pour parler. Après on va pouvoir tout réduire, en fait.
Oui, mais c'est catastrophique, parce que là, en fin de compte, quand on voit que... Non, parce que là, on voit ça à l'instant T, mais quand vous me disiez à l'instant, les grands scientifiques ou autre chose, on réintroduit dans leur programme...
L'incertitude.
Des incertitudes ou des erreurs.
Des erreurs.
Donc, ben, je pense que là, c'est un réajustement, en fin de compte, parce que j'ai l'impression qu'on allait un peu trop loin dans ce domaine-là. Et là, c'est
une... Et ça marche pas, surtout. Ils l'ont fait parce qu'ils ont des questions philosophiques. Ils l'ont fait parce qu'ils ont un intérêt. Ça fait 15 ans qu'on essaye, par exemple, de faire de la reconnaissance vocale dans les hélicoptères. tout ce qu'on a fait du plus rationnel, de programmer, limite programmer les gens pour que ça marche, ça fonctionne pas. Donc maintenant, ils sont obligés de remettre des systèmes où ils se disent, on sait qu'il y aura des erreurs. Donc on préfère maintenant avoir des systèmes qui gèrent quand il y a des erreurs que de dire non, il n'y aura pas d'erreur. Ouais, au départ, c'était ça l'idée quand même.
Ce qui est bien, parce que ça, ça me réconforte quand il y a des erreurs, ça me donne, disons, une raison d'être en tant qu'être humain. Parce que
il y a une ouverture, il y a une liberté.
Non, mais je veux dire, on aura peut-être besoin, la machine aura peut-être besoin de moi.
Eh oui. Et c'est ça, je pense que c'est ça, il y a cette question, effectivement.
Donc, à vrai dire, avoir tout ce que vous nous avez dit à l'instant, c'est plutôt sombre, noir. L'avenir est plutôt...
C'est critique aussi, hein.
Oui, non, mais d'accord. Parce qu'en plus, là, c'est un instant T comme ça, oui. Avec les technologies qu'on a. Mais c'est vrai que, de toute façon, depuis la nuit des temps, la technologie a toujours dicté sa loi, d'une certaine manière, à partir du moment où elle peut être bénéfique à la société, ou bien on voit le portable, par exemple, qui est, on sait qu'il y a des dangers au niveau des ondes, quoi que ce soit. Mais c'est tellement... Si demain on dit on applique le principe disons de précaution, bien de on risque d'avoir des problèmes de santé ou quoi que ce soit, vous imaginez qu'on dit on interdit les portables demain?
Ah, bien sûr.
Donc là encore,
l'idée de ce qu'on dit aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est de le savoir. Après, par exemple, regardez, moi je suis fumeur, je sais que les cigarettes, c'est pas bon.
C'est marqué sur les paquets,
il y a plein de trucs dedans,
c'est vrai, c'est pas bon. C'est vrai.
Même si c'est pas marqué, ça diminue ma vie, je peux avoir le cancer, tout ça. Après, c'est un choix. Effectivement, c'est la même chose si demain on interdit le tabac totalement. Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas l'inverse extrême aussi? Donc c'est intéressant la question que vous posez.
Quand vous dites c'est un choix, s'il y a quelqu'un...
Si on est au courant.
Oui, non, mais d'accord, là on le sait. Mais s'il y a un miroir qui vous dit, attendez... Si vous continuez comme ça, vous allez dans 10 ans être complètement... non seulement, et tout de suite, on va vous dire, on vous sucre tout votre assurance maladie, on vous sucre tout le truc, en disant, vous n'êtes pas conforme. Et là, c'est quand même... c'est la liberté personnelle qui est complètement...
Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça existait auparavant de manière immatérielle. La culture, c'est une machine de conformisation, par exemple. Il y a des pans entiers du développement de la culture qui sont des machines immatérielles de conformisation. Il y a des dictates, il y a des formalismes. Quand on est adolescent et qu'on ne s'habille pas comme il faut, qu'on ne parle pas le langage que parlent les autres, on peut ne pas avoir d'amis. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un miroir qui te dit « habille-toi comme ça, tu auras des amis » pour que ça existe déjà. Il y a déjà des machines immatérielles qui font ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, il y a des machines matérialisées.
Quand il dit c'est le recoupement, si ça rentre dans, après la gestion des toujours des bases de données et tout ça, c'est quand on voit déjà qu'aux États-Unis, bon, avec des systèmes d'assurance privée, on va pas vous machin parce que vous avez un facteur 400, risque cancer, voilà. Parce que vous avez dans votre famille, il y a des antécédents cancer.
Crédit report.
Donc vous êtes plus population à risque.
Ça a été interdit en France, ça, d'ailleurs.
Donc, avec des trucs comme Accenture, le miroir persuasif, ça peut être, bon, non, vraiment, là, la photo à l'instant T de votre futur dans 20 ans, c'est le pré-crime, quoi, vous êtes criminel avant d'avoir commis
l'acte. J'ai un copain qui voulait monter une boîte il y a 10 ans, qui voulait faire ce qui existe aux États-Unis, c'est le Credit Report. Vous appelez un numéro, il vous renvoie par fax tout ce que, comme information, tous les services de base de données des États-Unis ont sur vous, et notamment en termes d'argent. Et ça, il y a un index, et l'index, c'est le taux de solvabilité ou d'endettement que vous pouvez avoir. Et ça existe un petit peu au niveau des banques françaises, mais c'est pas recoupé avec, par exemple, si je paye mes factures EDF à l'heure, si je paye mon France Télécom, Canal+, que vous voulez à l'heure. Et lui, il voulait agréger tout ça pour que des organismes de sécurisation de crédit puissent avoir très très rapidement un profil de solvabilité, donc de pouvoir prédire finalement si cette personne elle est crédible, solvable ou pas dans son futur. Et ça a été interdit. C'est intéressant pourquoi ça a été interdit au niveau de la loi. Parce que ça va être autorisé, mais donc ça a été interdit pour lui ou pour les gens qui voulaient le faire de manière comme ça privée. Ça va être autorisé pour des grands groupes, notamment parce qu'il y a eu un lobbying de France Télécom et d'EDF qui ont des données incroyables pour prédire comment on peut consommer dans les 10 prochaines années. En fait, la régularité des paiements de EDF ou des factures de téléphone en disent très très long sur...
La psychologie des gens, en fait.
Sur le potentiel de dépenses que vont pouvoir avoir les gens dans le futur.
Ouais, même maintenant, ça existe, parce que moi, j'ai une carte de fidélité au supermarché.
Oui, mais
on m'a écrit...
Sur un plan. pas recoupé encore.
D'accord, mais je veux dire par là, ils m'ont envoyé des courriers pour me dire que j'avais des avantages parce que j'étais un bon client chez eux. Parce que, bon, je consommais bien, etc. Donc, ils me sollicitent. Parce que l'ordinateur a vu que... là, je sais pas si vous avez vu, il y avait une émission sur, je crois que c'est sur France 2, c'était cette année, qui parlait que dans environ 5 ans, les ordinateurs auraient une conscience.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah ben ça, moi je vous pose la question, parce que c'est vous les spécialistes, moi je suis un lambda de chez lambda, et vous êtes quand même très initié dans ce domaine, vous baignez en permanence là-dedans. C'est pas une question piège, hein. Simplement je voulais votre avis un peu là-dessus, parce que c'est les gens qui étaient, il y avait des spécialistes sur le plateau, il y en a certains qui étaient assez inquiets, pour pas dire un peu révoltés, de voir que c'était quelque chose qu'il fallait manier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Alors là, je vous pose la question, si vous voulez pas... Vous n'avez peut-être pas travaillé sur ce sujet, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, mais bon, je vais par là.
Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Et puis, je pense deuxièmement que, qu'est-ce que ça veut dire la conscience pour une machine ? Ça, c'est un peu comme la définition de qu'est-ce que c'est l'intelligence. Déjà, c'est très difficile de définir ce que c'est l'intelligence en psychologie, par exemple. Donc, la conscience aussi, c'est très compliqué. Que les machines aient une perception de leur environnement, oui. Il y a un concept en informatique, c'est la situation. Elles sont situées. Donc elles savent, par exemple, où elles sont, par des coordonnées GPS, qu'est-ce qu'il y a autour d'elles, elles peuvent réagir. Mais entre une réaction, un feedback et l'intelligence adaptive de l'homme, il y a un fossé énorme. Et c'est clair que dans les 10 000 ans à venir, il va y avoir une progression.
Est-ce que vous pensez qu'on va encore vivre 10 000 ans au régime où on
est parti ? Non, mais les machines, oui.
Et donc là, pour recentrer un peu le débat, parce que là, apparemment la question c'était pas... c'est vrai qu'on vit dans un milieu où il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques.
Oui.
Et quelles sont les choses ? Parce que moi dernièrement, il y a quelques semaines, je suis passé au salon Zen. Vous savez que le salon du bien-être, etc. Ah. Et donc, moi je travaille sur ordinateur, on m'a expliqué, démontré par A plus B qu'on était dans un brouillard électromagnétique et que c'était assez nocif pour l'organisme. Alors il y a quelques éléments qui peuvent des fois améliorer. On m'a proposé des lampes cristaux de sel. J'ai vu quelqu'un, un radiesthésiste qui fait des céramiques qui peuvent retransmettre ces électrons. Qui peut les modifier, les donner, les retransmettre avec les redonner avec ces ondes électromagnétiques qui sont assez nocives, qu'elles soient positives pour l'organisme, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tous les éléments ou des pierres ou que ce soit qui peuvent à la fois.
Ça c'est le côté.
Mais scientifiquement.
Des cristaux, des machins.
Mais les lampes de sel, elles émettent des ions qui correspondent des ions négatifs, je crois. Parce que l'autre, un ordinateur.
Négatif, je connais un peu le sujet, Il y a aussi maintenant, il y a une entreprise américaine qui... Enfin, en fait, c'est des chercheurs au départ scandinaves. Ils sont installés en Californie parce que ça perce à fond, apparemment. Et ils font des
batteries. Fait meilleur aussi.
Hein ?
Fait meilleur qu'en Scandinavie.
Oui, fait meilleur. Et ils ont eu des financements, un prix, je sais pas quoi. Et en fait, ils font des batteries de téléphone portable qui sont des sortes de contrephases. C'est pas des contrephases exactement, mais par rapport à un signal qui vient du portable nocif, qui est plutôt un signal carré, c'est donc pas très naturel. Ça va lisser la courbe sous la forme d'ondes naturelles, et donc à moins dire considérablement le danger de trucs pulsés, hein, stroboscopiques et tout ça. Donc j'en ai discuté aussi avec les gens du CRIREM justement. Alors eux ils sont plutôt sceptiques sur le truc. Après, il y a un autre organisme type CRIREM aux États-Unis qui s'appelle Safe Wireless, une initiative qui est une grosse fondation. Il y a toute une soirée de théma sur Arte sur eux, qui était vachement intéressante. Et eux, ils défendent ça à fond. Après, cristaux, machin. Il y a aussi des petits pendentifs. Moi, j'en ai acheté tout un moment pour voir. Oui. On fait des expos. Alors, c'est du travail d'artiste. Hein, donc, nous, on a fait le cabinet de curiosité électromagnétique. On avait mis tous les trucs, les cristaux, les antennes diffusantes, rayonnantes, bien-être.
Ça modifie les mesures que vous faites, justement, avec vos appareils ?
Oh, c'est... Il n'y a rien de probant, quoi. Enfin, c'est les rapports... C'est pas faut y croire. Le rapport, il n'est pas sur l'immédiat. C'est un truc sur...
C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mesurer ? C'est-à-dire quand vous dites qu'il n'y a rien de probant, c'est-à-dire que... Il y a peut-être quelque chose, mais les appareils qu'on a à l'heure actuelle ne nous permettent pas de les déterminer ou bien de les mesurer. Je veux dire, c'est donc un côté au niveau scientifique, il y a un côté frustrant parce que
il y a encore des choses à trouver dans ces sciences-là. Hein. Donc ça fait partie des choses. Il y a des choses qui avant paraissaient pour complètement paranormales, New Age, machin, qui aujourd'hui sont complètement entrées et expliquées scientifiquement. Je sais pas, moi, des
en tout cas, donc,
de,
j'ai acheté
de,
une...
de sourcier. Bon, maintenant, il y a des explications rationnelles du sourcier, le scientifique, le, on
l'explique. C'est les radiesthésistes. Et le gars qui fabrique ça, qui, des, ces céramiques, j'en ai acheté une. Et donc, c'est vrai que ça, j'ai constaté des modifications sur mon organisme. Je veux dire, est-ce que c'est psychosomatique ou quoi que ce soit?
Un radiesthésiste qui détecte parce que la présence de champs magnétiques et un radiesthésiste qui crée un objet, qui va charger un objet, c'est quand même très différent, quoi.
Non, mais tout à fait.
Donc, il y a différents types de radiesthésistes dans la façon de présenter leur travail.
Ils appellent ça la géobiologie.
Tout à fait.
Parce que, il faut voir que, on parle, attends, je finis sur le truc, on parle de brouillard électromagnétique et des trucs. Il faut voir qu'au niveau de la Terre, ça émet également des ondes qui sont néfastes au niveau de... On peut être très bien sur une faille, on peut être très bien sur des nappes phréatiques, des cours d'eau, quoi que ce soit.
Tout à fait. Voilà, comme ça on va pouvoir discuter un peu plus comme ça. Voilà.
Et on va passer par une démonstration par A+B de ces champs magnétiques.
Merci.
Démonstration sonore de la question.